Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Tiens, c'est le 60e numéro de Mon Paris Sport ce soir pour encore une émission où on va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil. On est en tout cas ravis ce soir d'accueillir d'abord une de nos invitées, c'est Vanessa, avec qui on va parler notamment de paralympisme et de la flamme paralympique. Vanessa, bonsoir.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Très bien.
Ouais, on a vécu une belle semaine paralympique.
Ouais. Oui, je suis très ravie bien. D'être avec vous.
Voilà, très bien. Et puis, on a aussi un boxeur rappeur. C'est notre ami.
Bonsoir
Romain,
à tous.
Bonsoir,
que vous Romain. Allez bien.
Et animateur de radio aussi, pareil.
C'est ça. Plusieurs casquettes.
Voilà, très bien. Mais ce soir, on va surtout beaucoup parler de sport.
Hein. Et
voilà.
Pas de souci. Très bien. C'est le principal.
Et puis, je veux saluer Laura qui nous a concocté un merveilleux journal des sports. Hein.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Laura.
Bonsoir,
ça va bien.
Super.
Djokovic, toujours au sommet.
Toujours.
Très bien. Bon, on en reparlera donc au cours de cette émission. Alors, d'abord, un petit mot, Romain. Oui. Le sport, comment il entre dans votre vie ?
Alors, le sport rentre dans ma vie depuis toujours, hein, depuis oui. petit. Le oui. foot en bas de chez moi, oui. Avec les copains.
Avec la casquette du PSG aujourd'hui.
Avec la casquette du PSG, ouais. normal. Ouais. Et puis après, voilà, hein, l'école, le judo, ben dans le 13e. Puis après, voilà, un peu la découverte. Couvert de tous les sports en fait.
Oui.
Mais je suis jamais resté dans un truc.
D'accord.
Voilà.
Et ensuite, pourquoi la boxe plus que le reste ?
Pourquoi la boxe plus que le reste ? Déjà, comme je vous ai dit, je suis jamais resté dans un sport. J'étais tout de suite, j'aimais tout de suite rentrer, découvrir un sport mais je restais pas. Vite découragé. Ah. Petit,
d'accord.
Vite découragé.
C'est pas forcément une qualité. Ouais. Hein.
Doué oui, dans oui, chaque oui. truc que je rentrais. Ouais. Mais une fois que hop, ça me, okay. j'avais ouais, capté le truc et que j'étais bien et que ça me saoulait un peu, hop, j'arrêtais.
D'accord.
Et la boxe, je le découvre à l'âge de 17 ans. Et à... Non, 17 ans, ouais, 17 ans, je découvre la boxe.
Ah, c'est
comme
tard
ça.
Quand même.
Ouais,
c'est tard,
tard
quand même.
Ouais, ouais, tard. Ah, ouais, tard. Ouais. Et une fois que je découvre ça, bah, j'aime. Mm-hmm. Et puis après, je me dis, bon, bah, il y a pas mal de colère en moi à canaliser. Donc je me dis, ce serait bien de pouvoir essayer de découvrir un petit peu ce milieu-là. Et donc, je tombe sur un club de boxe thaïlandaise que j'accroche pas spécialement. Et puis après, je tombe sur un club de boxe française. On me dit, ouais, il y a beaucoup de gars du quartier là, tout ça, viens tester. Je dis, ok. Et puis, je teste la boxe française et oui. je suis tout de suite pris en main. Et mmh. puis après, voilà, hein, là, j'ai pas lâché par contre.
D'accord, ok. Ouais. Et puis donc, boxeur et aussi dirigeant maintenant.
Maintenant coach. Ouais, ouais, j'ai passé les diplômes déjà une fois que j'ai été formé. Et puis après, voilà, j'ai eu l'opportunité de devenir coach. Et puis maintenant, c'est moi qui transmets.
Très bien, bah, on aura l'occasion naturellement d'en parler. La boxe, c'est un sport olympique ?
Ouais.
Hein, donc tout ce qui touche les Jeux Olympiques, je suppose que comme tout le monde, vous êtes impatient de les vivre.
Ouais, j'ai envie de voir la France réussir, ouais. j'ai envie de voir les autres pays s'éclater, j'ai envie de voir la fête à Paris. Oui.
Surtout qu'il y a eu beaucoup de médailles en boxe en 2016 sur Rio. Hein.
Ouais, moi je vous avoue, je regarde pas trop les combats
ah
de
bon
boxe olympique, ça c'est pas trop mon délire.
Ah ouais
ouais. Moi je regarde un peu plus les trucs à l'ancienne, les combats un peu anciens, je regarde des trucs un peu que les gens regardent. Pas moi.
Ah ouais,
ouais.
Les combats mythiques, non ?
Ouais.
Les combats mythiques.
Ouais,
hein,
des trucs un peu
Frazier,
spécifiques.
Clay, non ?
Ouais, exactement.
Tyson, tout
Joe
ça.
Joe Louis.
Ah oui, oui, oui. Bah oui. Ouais. Ah oui. Bah on va en parler.
Je regarde
que...
des trucs ouais. très, très rares.
Mmh. Mmh. Très bien. Auparavant, bon, il y aura les Jeux Olympiques.
Oui, oui, bien sûr.
Vous allez essayer de vous investir sur les Jeux
Déjà, on a une compétition le 16 décembre à Drancy, donc au club C'est Positif, donc là où on donne les cours, où il y a Prat Milan qui est champion d'Europe et un grand champion, pareil, quasi invaincu et tout, que je salue, entraîné par Kassa Baradji, qui est un grand entraîneur, qui entraîne d'ailleurs des champions qui vont participer aux JO. Et puis moi, on entraîne les enfants, et puis qui vont faire une compétition d'ailleurs, que je salue tout le monde, il y a Émile, tout ça. Et du coup, moi je soutiens tout ce qui est dans le sport en général, dans n'importe quelle discipline, que ce soit au ping-pong, au judo, au foot ou au badminton. Moi, je suis à fond, moi. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral.
Et puis, par exemple, porter la flamme, ça vous plairait de participer à la flamme olympique ?
Bah, avec toi, alors.
Bah, pourquoi pas ?
Ouais.
Pourquoi
si on porte la flamme et qu'on enflamme les gens, ouais, moi, il n'y a pas de souci, on enflamme la foule, il n'y a pas de problème.
Très bien. Plaisir, alors, Philippe. On a vu l'occasion, en tout cas, d'être à la présentation et au dévoilement de la flamme olympique. C'était donc le 23 juin dernier, c'était donc à la Sorbonne. On en avait parlé à travers toute une série d'interviews qu'on vous avait donc ramenées. Et puis, on a eu l'occasion d'être le 10 novembre, c'est-à-dire vendredi en 8, donc à la présentation de la flamme paralympique. Hein. Alors, je vais quand même vous rappeler que la femme, eh bien, elle partira de Stock, Mandeville, c'est le berceau, c'est en Angleterre. Elle traversera le tunnel de la Manche à travers donc des relais de 24 sportifs français qui rencontreront 24 sportifs donc anglais. Et puis une fois arrivé à Calais, eh bien, il y aura 12 régions qui en même temps s'élanceront avec une autre flamme pour converger tout ça sur Paris pour le 28 août, c'est-à-dire la veille donc de l'ouverture des Jeux paralympiques. Et tout ça, ça se fera à partir du 25 août. Et 25 août, c'est l'anniversaire de la libération de Paris. Voilà, donc c'est un côté un petit peu symbolique. Ouais, mais il y aura effectivement donc 50 nouveaux territoires qui viendront donc se mêler à la fête. Hein. On sait que 64 territoires seront concernés par les Jeux Olympiques donc à Paris. Hein. 68 jours où on traversera donc pour les Jeux Olympiques eh bien, avec la flamme. Bon, là, il n'y aura que 4 jours pour les Paralympiques, mais enfin, bon, c'est plus réduit. Hein. Donc voilà. Alors, on va écouter en tout cas quelques interviews sur ce qu'on a ramené et on va commencer avec Amélie Marie Le Fur. C'est la présidente du comité donc paralympique français et elle naturellement elle est ravie que ce soit le match retour à travers donc cette flamme paralympique.
Son concept et dans ce qu'il voulait faire.
Bah nous effectivement on est relativement satisfait hein, de ce parcours de la flamme, un parcours plus court mais beaucoup plus intense avec ces 12 branches qui vont se diviser sur la France pour animer nos territoires autour de deux grands enjeux. Le premier ça va être de montrer le dynamisme de nos territoires en faveur des personnes en situation de handicap, en faveur de l'accès au sport des personnes en handicap. Et il y a vraiment des villes qui font sens, qui vont être traversées, la ville de Vichy avec son Krebs, la ville de Bobigny avec le Prisme, traverser aussi des villes qui se sont vraiment engagées pour l'ouverture de clubs comme Arras ou Laon. Et le deuxième enjeu, c'est aussi de faire vivre cette émotion du match retour dans les territoires et de donner à connaître aux Français ce que sont les émotions des Jeux paralympiques. C'est le même concept, c'est tout ce qu'on aime dans le sport, mais avec le supplément d'âme d'avoir des athlètes en situation de handicap. Voilà, c'est tout ce qu'incarne ce René, c'est tout ce qu'incarne ce trajet de la flamme paralympique au travers de nos territoires et vraiment mettre en lumière voilà, tout ce qui se fait et tout ce qui doit perdurer après les Jeux paralympiques de 2024.
Il est relativement court, ramassé, mais on peut le qualifier d'intense finalement.
Oui, il est très intense puisqu'en fait le modèle paralympique nous permet voilà, de diviser la flamme et donc d'avoir ces 12 branches qui sont un écho aux 12 jours des Jeux paralympiques, la cérémonie d'ouverture, au jour de compétition. Donc ça va nous donner la capacité voilà, sur un relais de 4 jours d'animer 50 villes, 50 territoires autour de festivals de la flamme pour que les gens puissent se réunir, s'unir et raviver cet esprit de la fête autour des jeux, du sport et du vivre ensemble.
Oui, et puis une date symbolique, hein, 25 août.
Oui, effectivement, la date symbolique autour de la libération de Paris. Et on avait vraiment aussi à cœur voilà, dans ce relais de faire en sorte que le patrimoine culturel, historique de la France soit aussi mis en lumière. Et je pense que ce tracé reflète tout ça, à la fois l'engagement sportif, notre histoire avec le handicap, mais plus globalement notre histoire de France et la beauté de notre patrimoine.
Il y a aussi un passage de témoin symbolique entre la France et l'Angleterre dans le tunnel sous la Manche. C'est l'un des premiers temps forts de ce relais.
Oui, alors espérons qu'ils vont nous partager leur expérience et leur expertise de la réussite des Jeux à la maison. Donc voilà, moi je vois en tout cas une très belle symbolique et c'est surtout la passation de notre histoire. C'est-à-dire que ce relais va être allumé à Stoke Mandeville, qui sont vraiment le berceau des Jeux paralympiques avec cette impulsion de Sir Ludwig Goodman. Donc je pense que c'est aussi un très beau clin d'œil à l'histoire des Jeux paralympiques, le rappeler, le donner à connaître à nos Français. Et puis ce passage de témoins sous le tunnel de la Manche qui est absolument merveilleux. Et encore une fois, j'espère voilà, qu'on saura se nourrir de l'énergie des Anglais en faveur du handicap, en faveur du paralympisme, pour allumer la flamme paralympique en France.
Merci beaucoup. Merci. Voilà Vanessa, il ne faudra pas rater ça. Hein.
Ah oui, on sera au rendez-vous.
Oui, oui. Ça sera un grand moment. Hein.
Ah bah oui. Franchement, c'est les gens qui sont acteurs de ça, c'est super, je trouve.
Mm-hmm. Alors, ouais. Il y aura 11 000 donc, porteurs et porteuses de la flamme hein, paralympique contre... Il y aura 11 000 porteurs et porteuses de la flamme olympique et il y aura 1 000 porteurs et porteuses de la flamme paralympique. Fatalement, il y a moins de jours. Hein, donc, ça réduit un peu plus, mais ça sera en tout cas un grand moment. Allez, on va écouter celui qu'on a assez régulièrement à ce micro aussi. Bah, c'est le président du COJO, ni plus ni moins que Tony Estanguet, lui aussi, pour lui, à travers cette donc flamme paralympique, c'est déjà le match retour. Allez, Tony, un bon prolongement donc du relais olympique.
Ouais, nouvelle étape très importante pour Paris 2024. Effectivement, ce parcours du relais de la flamme paralympique, ça va être un temps très important pour nous. C'est la première fois qu'on va organiser ces Jeux paralympiques d'été en France. Et forcément, ce coup d'envoi, il se joue aussi à travers ce relais de la flamme paralympique. Donc 4 jours très intenses. Une cinquantaine de villes dans toutes les régions françaises vont être traversées pour célébrer les athlètes, le sport, mais aussi tous les sujets d'inclusion. Parce qu'on a des territoires aujourd'hui qui s'engagent, qui souhaitent être acteurs de ce changement, d'une société plus inclusive. Et donc c'est des valeurs de fête, de sport, mais aussi encore une fois de changement de société.
C'est le match retour.
C'est le match retour et on a hâte d'y être. C'est vrai qu'on n'a jamais une deuxième possibilité de faire une bonne première impression. Donc c'est la première fois que notre pays va organiser ces Jeux paralympiques d'été. C'est le match retour, le retour des émotions des Jeux, des émotions du sport. Encore une fois, cette opportunité incroyable de faire bouger les lignes, d'engager les acteurs publics, les acteurs privés, les entreprises, mais aussi tous les citoyens finalement dans cette évolution de notre société et célébrer les athlètes. On va vivre un moment de dingue. C'est la première fois, mais c'est aussi, je crois, une découverte pour beaucoup de Français qui aimaient déjà le sport, mais qui vont découvrir les Jeux paralympiques et je pense qu'ils seront très agréablement surpris.
Il y a un premier temps fort symbolique, c'est le passage de témoins dans le tunnel sous la Manche entre les Anglais et les Français. Les Anglais qui avaient particulièrement bien réussi leurs Jeux paralympiques en 2012, c'est un premier temps important, j'allais dire.
Oui, il y a un beau clin d'œil à l'histoire, effectivement. Cette flamme, elle va s'allumer à Stoke-Mandeville, cette ville britannique, effectivement, où ont été pensés les Jeux paralympiques en 1948. Ensuite, la flamme revient par le tunnel sous la Manche avec un très beau relais symbolique de 24 athlètes britanniques qui transmettront la flamme à 24 athlètes français. Et puis, la flamme arrivera dans l'Hexagone à Calais. Et de là, va débuter 4 jours de célébration très spectaculaire aux 4 coins de la France, aux 12 coins de la France, en écho justement aux 12 jours de célébration des Jeux paralympiques.
Un mot justement sur l'esprit de ce relais avec ces 12 flammes différentes aux 4 coins de la France.
Ouais, l'objectif pour nous, c'était de répondre à la contrainte qui voulait que de toute manière, on n'avait que quelques jours pour faire ce relais de la flamme paralympique. On n'a pas, comme pour les Jeux olympiques, 2 mois et demi, puisqu'on n'a que quelques jours entre la fin des Jeux olympiques et le début des Jeux paralympiques. Et donc, l'idée est venue de maximiser, d'avoir une flamme multiple avec effectivement 12 flammes en même temps qui seront allumées aux 12 coins de notre hexagone et qui vont converger vers Paris, vers la cérémonie d'ouverture pour prendre toute l'énergie des territoires, des millions de Français et converger vers Paris pour célébrer les athlètes. Pardon ?
C'est les 12 travaux d'Hercule ?
Oui, c'est un petit peu ça. Non, c'est vrai qu'on est très ambitieux sur les Jeux paralympiques. Depuis le début, on a fait bouger les lignes. C'est la première fois qu'on a le même logo. C'est la première fois, effectivement, qu'on aura les mêmes sites de compétition. C'est la première fois qu'on aura une seule équipe de France composée des athlètes olympiques et paralympiques. On a vraiment envie, quelque part, de démontrer que ce relais paralympique, il est dans cette ambition de retourner la table et de vraiment faire vivre aux Français une première fois absolument historique.
Merci. Voilà, merci donc à Tony Estanguet, ça sera effectivement un beau prolongement. Et puis vous savez qu'il y a des capitaines de route pour ces relais olympiques. Alors il y a 2 athlètes paralympiques, c'est Mona Francis et Dimitri Pavadé. Et puis il y a 2 athlètes olympiques qu'on connaît, hein, Laure et Florent Manodou, on les avait eus d'ailleurs en interview au mois de juin. Et puis il y a quand même des ambassadeurs, alors aussi des ambassadrices et ambassadeurs prestigieuses, comme ambassadrice, il y a Marine L'Orphelin, une ancienne Miss France, grand passionnée de sport. Il y a Thomas Pesquet, on l'a vu aussi en interview. Jamel Debbouze, alors là, on avait bien rigolé après l'interview. Et puis, on va l'écouter maintenant. C'est un fan de sport. Il sera aussi au relais olympique et paralympique. Il compte courir. C'est Thierry Marx, le grand cuisinier, 4e dame de judo.
Je suis fan de cuisine en
ouais,
plus.
Ouais, bah c'est bien. Ouais. Allez, Thierry Marx.
Participer
participé après le dévoilement de ce parcours de la flamme paralympique, parce qu'on est fiers d'y participer.
Bah, on est fiers en tant que citoyen, on est fiers en tant que sportif, et ensuite on apprécie comment on va pouvoir diffuser dans nos associations au travers de cette force de la flamme, cet éclairage sur le sport, de montrer que le sport est un moyen extrêmement puissant de ne pas se croire assigné des fois à des situations, et nous dans nos quartiers où on développe beaucoup d'associations liées au sport, de montrer que c'est un véhicule extrêmement bon pour retrouver un petit peu confiance en soi.
Un maillage complet du territoire, c'est effectivement très important pour donner cet esprit et rappeler l'importance de l'inclusivité.
Un maillage du territoire dans le monde urbain et rural, c'est pareil, évident. On parle des Jeux Olympiques de Paris, mais c'est la France qui est représentée, et ce maillage montre aussi toute la diversité française et ce besoin que nous avons de retrouver cette unité, des fois par moment, et que le sport... Et encore, ça ne vous a pas échappé que le sport était encore le seul véhicule qui nous faisait faire unité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut protéger, très sincèrement.
Derrière vos casseroles, est-ce que vous avez déjà pensé un petit plat pour ces Jeux Olympiques?
J'ai pensé des plats, mais j'ai beaucoup travaillé déjà sur les plats pour les athlètes, pour leur préparation physique, pour certains athlètes. Nous, on est dans le judo, on a des problèmes de catégorie de poids. Je suis bien placé pour en parler. Donc on a tout un programme lié à la nutrition pour les sportifs, mais ça, c'est de la partie professionnelle. C'est en delà. Moi, ce qui me plaît le matin, c'est de retrouver ma condition physique avec mes partenaires de judo.
Alors vous, Thierry, vous y allez, hein, vous allez courir?
Alors moi je vais courir, bien sûr, oui, non, j'ai adoré découvrir la France autre, grâce à la course à pied, moi, donc je continue, bien que je suis un piètre coureur, mais porter la flamme et courir avec la flamme, bien sûr que je vais pas me priver de ça. Quoi.
Une préférence sur une portion peut-être du relais qu'on a découvert ce matin?
Non, je suis un amoureux de la France et peu importe quel territoire on me proposera, je crois que chaque fois que j'arrive dans un département, je me dis j'aimerais bien avoir une maison ici, donc non, j'ai pas d'inquiétude pour ça, ils vont bien me trouver un lieu très sympa et tous les lieux seront les bons, tous les parcours seront
les bons. Une émotion particulière, ça représente vraiment une charge symbolique très forte de porter la flamme paralympique.
Oui ça représente une émotion toute particulière en tant que citoyen, en tant qu'homme, de toucher cet objet finalement qui véhicule tellement d'histoires, tellement d'émotions au travers du sport. J'ai fait 3 Olympiades dans lesquelles j'ai pu être dans les observations aux commentateurs, et c'était que ce soit à Londres, à Rio, à Tokyo, dans des moments historiques des fois, parce que Tokyo c'était une crise sanitaire, et que ces athlètes finalement ont quand même réussi à nous faire vibrer, enchanter, et en même temps à chaque fois que vous commentez, vous ne pouvez pas éviter la charge de l'histoire, de tous ces, au travers du sport, de tous les messages qui ont été passés de façon pacifique. Et ça, on ne peut pas. C'est le seul moyen, là aussi, de faire passer de façon pacifique un certain nombre de messages de diversité et d'engagement social.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, en tout cas, un beau message d'un vrai féru de sport, donc Thierry Marx. Et puis, vous voyez, il nous l'a confirmé, il fera bien partie donc des 11 000 relayeurs de la flamme olympique. Et des 1000 relayeurs de la flamme paralympique. C'est fabuleux, cette passion pour le sport.
C'est incroyable. Et en plus, je te disais que j'étais fan de cuisine, tu vois.
Oui.
Moi, j'ai fait Ferrandi. C'est Et donc, je peux te dire que son métier, à lui, il est très, 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 très physique.
Oui.
Très, très, très physique.
Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de sport.
Ouais, je pense. Ouais. Et puis, je pense qu'il doit être très gourmand aussi. Donc,
oui, bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Important de...
Et quatrième dame de judo, en plus.
C'est un bon, le gars. Mm-hmm. Et ouais, ça se voit qu'il est passionné, qu'il est habité par ça, que c'est quelque chose d'important pour lui de... Mm-hmm. Et c'est super. Tout ce qu'on a entendu, c'est
voilà.
Super. Ouais.
Mais les Manodou le feront aussi. Et Jamel, qu'on avait interviewé, Jamel Debbouze, il avait promis de le faire aussi. Voilà, donc on va bien rigoler. Allez, on va finir cette interview faite avec l'ensemble des journalistes, en poule. Laura, ça marche toujours comme ça. Dans tous les grands rendez-vous, on va finir avec... elle est voisine, elle n'est pas loin d'ici. C'est la ministre, donc Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et puis des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et la ministre, elle est interviewée. Puis en plus, c'est bien parce qu'on a pu parler un peu de ce qui se passe pour le surf donc à Papeete. Allez, c'est bon ?
Bonjour.
Allez, Madame le Ministre, donc on va prolonger la fête, on va faire un beau match retour.
On va faire un très beau match retour avec ces Jeux paralympiques, avec ce relais qui est historique. Ce sera la première fois qu'on aura autant de villes traversées à travers tous les territoires, ce qui montre vraiment qu'on veut faire de ces Jeux les Jeux de tous les Français. Ça sera les Jeux les plus décentralisés de l'histoire. On va avoir 50 villes mises à l'honneur, l'ensemble des régions de l'Hexagone, des éléments de valorisation de notre patrimoine culturel, historique, naturel, la mise en valeur de villes très engagées autour du sport, mais aussi de toutes ces municipalités qui partout en France œuvrent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport, qu'elles investissent beaucoup dans la mise en accessibilité des équipements ou bien dans la démarche des clubs inclusifs qui accueillent des personnes en situation de handicap avec des personnes et des bénévoles spécifiquement formés pour ça, ou des villes qui ont choisi de s'investir beaucoup dans le haut niveau paralympique comme Vichy, ou encore des villes qui ont déjà pris des engagements pour l'organisation de Fan Zone de Club 2024 pendant les Jeux paralympiques.
Et puis ce sera le 25 août, hein.
Et voilà, le 25 août, magnifique, le 80e anniversaire de la libération de Paris. Donc ce moment où une flamme sera allumée à Paris ce jour-là. Elle va ce même jour-là se diviser en 12 à Calais avec ce très beau passage de relais symbolique entre les 24 athlètes britanniques, les 24 athlètes français. On se souvient que les Britanniques, bah, c'est là-bas que le berceau du paralympisme se trouve, à Stoke Mandeville. Et donc cette épopée à travers l'Angleterre et ensuite cette arrivée en France, cette diffusion de l'énergie des Jeux dans tous les territoires avec les 12 flammes, un peu comme les 12 méridiens du corps humain, c'est assez magnifique.
Concernant les Jeux Olympiques, il y a une petite polémique en ce moment à Tahiti à propos de la tour des juges qui va être installée à Teahupo'u. Quelle est votre position par rapport à tout ce qu'on a appris cette semaine et notamment au propos du président polynésien qui s'est dit prêt à déplacer les épreuves de surf ?
On est le 9 novembre aujourd'hui. D'ici le 20 novembre, on aura la restitution des différentes analyses qui ont été menées. On a en équipe décidé de revisiter les différentes options avec l'actuelle tour des juges autour de ce qui pourrait être fait pour mieux préserver l'environnement dans le cas où la tour des juges nouvelle qui était envisagée puisse être déployée, d'avoir aussi une réflexion plus large sur comment on peut au mieux à la fois être au rendez-vous de la sécurité et de la préservation de l'environnement, apaiser au mieux les préoccupations des habitants locaux aussi qui se soucient de la bonne préservation notamment des coraux localement. Donc on aura le résultat de ces différentes options, de ces différentes analyses. Moi j'échangerai avec Mota et Brotherson à travers le week-end et il n'est pas exclu que je retourne en Polynésie en décembre pour bien partager tout ça et qu'on puisse retrouver toute la sérénité sur ce dossier-là. Vous savez que Teahupo'u, c'est une vague qui est absolument unique au monde. Elle représente un défi sportif absolument majeur et nous avons vraiment tout intérêt à essayer de préserver au maximum cette option qui est très structurante dans la programmation des Jeux Olympiques.
Vous savez quand est-ce qu'il...
Voilà, donc pour la ministre qui, je pense, n'aura pas besoin de retourner donc à Papeete parce qu'une solution a été trouvée. On va quand même donc construire, mais avec... de façon beaucoup moins imposante et beaucoup plus écologique. Donc apparemment, depuis l'interview et depuis le fait qu'on ait rencontré Madame la Ministre, ça s'est donc arrangé. Donc tant mieux. Voilà. En tout cas, voilà pour cette flamme olympique. Et puis, écoutez, on va rappeler les dates. Donc du 25 au 28 août, juste avant le début des Jeux Olympiques, alors que la flamme olympique, elle, entrera sur le territoire le 8 mai jusqu'à donc le 26 juillet pour l'ouverture donc de ces Jeux Olympiques parisiens. Laura, on fait le journal des sports maintenant,
hein ? Allez, c'est
donc parti. Djokovic, j'en parlais, plus que jamais, il bat tous les records.
C'est ça, il est indétrônable. Le premier mondial du tennis remporte ce week-end le Master de Turin face à l'Italien Yannick Sinner 6-3-6-3 après avoir éliminé Carlos Alcaraz en demi-finale 6-3-6-2. Il a remporté le Paris Master au début du mois. Le premier mondial continue de survoler la discipline du tennis. Le pilote Red Bull Max Verstappen.
Alors lui, c'est pareil. Hein. Il est comme Djokovic qui survole la saison de Formule 1.
C'est ça, il remporte le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas 2023. Le Néerlandais devance de peu la Ferrari de Charles Leclerc qui arrive deuxième de la course. Le Monégasque a tout de même été élu pilote du jour à près de 22% de la part des fans. Les deux Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly.
Ocon.
Ocon et Pierre Gasly héritent de la 4e place et de la 10e place du Grand Prix. Et puis concernant la moto, oui. Il y a eu le Grand Prix moto du Qatar 2023.
C'est plus passionnant quand même la moto que la Formule 1 cette année.
Oui, il y a un peu plus de
suspense et de bagarre. Ouais.
Le tenant du titre Francesco Bagnaia de l'équipe Ducati est dépassé en fin de course par son compatriote Fabio Di Gianantonio qui signe sa première victoire dans cette catégorie. Le champion du monde est bien placé pour l'instant en attendant le dernier week-end de la saison à Valence. Côté français, Fabio Quartararo de l'équipe...
Quartararo,
j'ai du mal aujourd'hui avec la famille. Quartararo de l'équipe Yamaha signe une belle remontée et se place désormais à la 7e position. C'est l'inverse pour Johan Zarco qui tombe à la 12e place. Et puis pour le rallye, le Britannique Elfyn Evans de Toyota remporte la dernière manche de la saison. Le rallye du Japon ce dimanche et s'offre le titre de vice-champion du monde des rallyes WRC. Il est arrivé juste devant son coéquipier français Sébastien
Ogier
et le pilote finlandais
Rovan Perä, non ?
Rovan Perä.
Voilà, c'est lui champion du monde.
Oui.
C'est lui champion du monde donc final.
Exactement.
Voilà. Et puis il y a des petits résultats concernant nos clubs.
Les clubs franciliens.
Hein, franciliens et parisiens, ouais.
C'est ça, 6e journée du top 14 de rugby. Les deux équipes franciliennes du Stade Français et du Racing 92 se sont affrontées samedi. Le Racing remporte le match 13-9. Les deux équipes sont toujours au coude à coude. Elles conservent leur première position avec 23 points. Côté basket, Monaco se hisse toujours à la première place du Betclic Elite devant Paris qui offre samedi la victoire à Roanne 76-83. L'équipe de Nanterre s'impose 94-86 face à Boulogne-Levallois. Les deux équipes franciliennes occupent respectivement la 5e et la dernière place du Betclic Elite. Et puis 10e journée du Liquid Molly Starling Handball, le PSG qui gagne hier son match 39-31 face à Aix-en-Provence se démarque de l'équipe de Montpellier qui le talonne d'un point seulement, 20 et 19 points. De son côté, l'équipe de Créteil occupe toujours la 13e position. Et pour la Ligue Butagaz Énergie, l'équipe féminine du Racing 92 remporte mercredi son match face à Saint-Amand-les-Eaux, 27-24, et conserve sa 4e position. Et puis pour clôturer ce journal des sports, on va parler de volleyball. L'équipe de Paris glisse de 2 places et se positionne à la 9e place après avoir perdu 1-3 face à Nantes-Rosé. Le Plessis Robinson qui gagne son match samedi 3-1 face à Narbonne reste pour l'instant à la 7e place de la Marmara Spike League. Côté Ligue A, même score pour le Valois-Paris qui perd son match 1-3 face à Béziers et partage désormais la première place avec les équipes de Mulhouse et de Vendeuvre.
Oui, alors on va dire que la Liga, c'est le championnat féminin.
Oui, voilà. C'est ça, championnat voilà. Féminin.
Alors, et je voulais rajouter un petit quelque chose pour le basket parce que j'ai reçu un mail donc, du chargé de communication cette semaine. Il y a eu des propos racistes dans un match de Coupe d'Europe qui a dénoncé donc, le Paris Basket et le président. Voilà, donc il fallait quand même le signaler, c'est naturellement inadmissible au niveau du sport. Voilà, on va écouter une pause musicale, la première. Alors, c'est le rap.
Ah, c'est ça, du rap.
Ouais, parce qu'en plus, le fait d'avoir touché à tous les sports, d'être animateur de radio, aussi...
Rappeur avant tout. Ouais. Et voilà, c'est l'artistique est quelque chose qui m'accompagne tout le temps.
Alors, faut jouer les animateurs de radio, faut lancer le disque. Alors, écoute, Omar, à la Billy, alors, Montana,
Omar,
c'est ça.
Alors, ouais. C'est ça. Le titre que tu vas écouter, c'est ouais. Un feat avec Libby Montana qui a fait un featuring avec Jams, Rof, Safe You, tout ça. Et donc, on a fait un morceau ensemble dans le 13e d'ailleurs. Mm-hmm. Et ça s'appelle 13.
D'accord. Et ensuite, les premiers jurés, on parle de boxe.
Ben, il n'y a pas de souci.
Allez, on y va.
Ok.
Omar. Omar. Je suis un missile, si très précis, un sicilien. Je mène mon odyssée, jamais été lycéen. Une vie entre l'amour et des démons agressifs. Je suis la prophétie, je suis pas le dernier, mais le nouveau MC. J'ai dans mon esprit les Tessis, les quartiers, les chéris qui aiment partager. C'est toujours format people. Au mic, c'est Jordan et un peu Scotty Pippen. La baisse ma petite gueule, je suis un kicker. Fuck Satan, je préfère Satan, petit cœur. L'argent n'a pas d'odeur, mais ça sent la merde quand on voit pas la couleur. On parle peu de nos douleurs, mais aujourd'hui la coupe du bonheur on soulève. Je suis un ancien qui pousse la relève. Je suis professeur, mais je resterai un élève.
J'suis plus grenadine que Benez. Plus sagesse que je pèse. Il n'y a que lui, je l'atteste entre altesse. L'être humain est sacré. Tous ces massacres, ces incestes, tous bazar, les relations bizarres. Mais voilà, on est puissant, puissant. L'énergie dans la paix du tout puissant. J'suis saisissant. Et je fais ça d'une manière ahurissante. Je dis pas, je fume pas, ça m'empêche pas de faire des bêtises. Tu vois, tu m'excuseras, mon petit poussin. Ah ouais, j'y pense, c'est temps que je mette un petit refrain, coussin. Le canon sur la tempe pose ta tête sur le coussin. C'est pas une mouboussin que je t'offrirai le jour de la Toussaint. Dans le crew, c'est un pour tous, tous pour un. On fout le darwa sur Paris. Petit frère construit des avions chez les Toulousains. Je suis expressif, explicite, explosif, actif et corrosif. Rien que Figalbu ça grossit. Cherche pas de dossier, y'a que ça. Mais on a une certaine mentale, tu comprendras si je te vois de ça. J'ai trop de phases, je suis trop saine. Caractère corsé en étant trop zen. J'ai trop de phases, je suis trop fort sans être obscène. Mon texte t'a fait suer. Dans les brancards j'ai rué. Là tu pourras dire Omar, il m'a tué.
Si je tire, ça fera des dégâts. Doucement, doucement, vaut mieux faire reculer tes gars. Lentement, lentement.
Check ça, chacal, chacun, chacun. Chacun son chacun son machin.
Si je tire, ça fera des dégâts. Doucement, doucement, vaut mieux faire reculer tes gars. Lentement, lentement.
Alibi Omar, Omar Alibi, c'est pas Cali, Cali présent.
Depuis l'année 2000, jamais en manque de missiles. Jamais. Fleury-Ville pape jusqu'à nouveau domicile. Rien ne m'étonne, même pas la chute d'El Chapeau. Ou les négros ne faisant que de l'auto d'une auto. T'as ma parole, j'étais dingue avant que Poutine devienne bizarre. Premier album écrit au fond du mitard. Sommeil en moi, toujours ce fauve à moitié dingue. Rescapé de Turi d'Haïti, a failli perdre la vie.
T'entends?
MCC, on m'appelle Monsieur Fitman. Va donc on crie mon nom de mandat OL ou Danny Dan. Montana, rap par quoi Forza. Partout j'ai ramené ça. Giuseppe mes accents. Bla, abracadabra. Le flow, nique ta maman. Oh, si ta nana, aussi criminel. Pas de glorification, qu'on faut conseiller les petits, je le fais sans prétention. Je te jure, hola, Alphonse Areola. Je mets la manita de Dieu tout comme Maradona. Chaque problème a toujours sa solution. Bam, celui qui me teste a toujours sa punition. Si je tire, ça fera des dégâts. Doucement, doucement, vaut mieux faire reculer tes gars. Lentement, lentement.
Check ça, chacal, chacun, chacun. Chacun son chacun son machin.
Si je tire, ça fera des dégâts. Doucement, doucement, vaut mieux faire reculer tes gars. Lentement, lentement.
Alibi Omar, Omar Alibi, c'est pas Cali, Cali prise dans la cabine.
Oui, et cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes les autres, notamment toutes celles de cette saison. Alors, pour, Romain, pourquoi le rap, en plus de la boxe, ça arrive comment ? C'est deux milieux complètement différents ?
C'est pas totalement différent.
Non ?
Mais en fait, le rap, c'est venu d'abord. Parce que le rap, c'est quelque chose... Moi, j'ai traîné sur, dans un quartier dans le 13e. Et en gros...
Il y a beaucoup de bonnes choses
dans le 13e, c'est incroyable.
Beaucoup de, beaucoup de compétences sportives et culturelles. Hein. Ouais,
carrément.
C'est fou, hein.
Et c'est venu assez naturellement, comme la plupart des jeunes de nos jours. Donc voilà, j'ai connu le rap comme ça, un peu d'une manière assez naturelle et puis par amusement. Et puis après, j'ai découvert la boxe et j'ai totalement délaissé le rap. Et du coup, je me suis investi à fond dans la boxe. Et en fait, l'un et l'autre sont liés parce qu'en fait, comme y a un grand, grand morceau classique rap français qui dit un morceau qui s'appelle « Je boxe avec les mots ». Tu vois, et en fait pour moi c'est un peu similaire, tu vois. Et aujourd'hui le coach qui est un ancien élève de mon coach aussi, on est tous
même source.
Et en gros il me dit, ouais Romain, quand tu boxes, vas-y, laisse-toi aller comme quand tu chantes. Donc moi c'est un truc que j'utilise. Et aujourd'hui il y a même des gens qui utilisent ce terme là aussi, de méditation dans le combat. On a des grands champions bah pour citer son nom, c'est Enoch Effa qui dit ouais, on peut combattre et méditer, tu vois, c'est très paradoxal, mais finalement dans le relâchement, on parle d'énergie aussi, tu vois, et on parle d'art dans le combat.
Oui, bien que sûr, c'est le noble art, hein, c'est pas rien,
tu
hein.
vois.
Ouais.
Et donc dans ce truc de rap où finalement on balance des mots un peu durs parfois ou du punch dans le phrasé, moi je m'y retrouve. Mmh. Je me retrouve, tu vois. Après, il y en a un, on va dire la boxe, on va dire quand même, on détruit un peu l'adversaire. Mais il y a du respect. Moi, j'ai beaucoup d'amour, hein, de respect quand je boxe quand même. Et dans le rap, eh ben, on dit des mots durs, mais finalement, c'est pour créer des ponts et créer du lien et créer des choses positives.
Ouais. Et puis le point commun, c'est la solitude aussi, peut-être du boxeur ou du rappeur.
Moi, je me sens jamais seul.
Non, devant un parterre de.
Non, je me sens jamais seul.
De spectateurs.
Jamais. Je te jure,
jamais.
Ouais, jamais. C'est bien. Même quand je suis seul, je me sens jamais seul.
Ouais, c'est bien.
Moi, je me sens toujours jamais seul.
Mm-hmm. Ouais. Donc la boxe, elle a commencé. On l'a dit à 17 ans.
Ouais, 17, 18 ans. Ouais. 17 ans, je commence un peu à mettre les gants, tourner un peu à droite à gauche. Et puis 18 ans, vraiment, je m'inscris. Hop, je suis pris en main. Tout de suite, on me dit bon. Toi, hop, tu viens tous les jours. Et puis je m'entraîne pendant 2 ans, du lundi au samedi.
Donc voilà. Tout de suite ici au 120.
Au 120.
Chez notre ami Philippe Magnol.
Chez notre ami Philippe. Donc voilà. Il me prend très au sérieux. Enfin, au début, il me dit tu viens t'entraîner.
Ouais.
Et puis après, il voit que je suis un peu déterminé. Il pose des questions un peu à droite, à gauche aux autres jeunes. Il dit ouais, vous pensez quoi de lui? Et tout de suite, on me dit ouais, lui, il faut tout de suite le mettre dans le truc.
D'accord.
Et puis voilà.
Et combien de combats?
Alors, première année, je m'entraîne. Tout de suite, je commence à faire de la compète. J'en fais, je sais pas, peut-être 5-6. Tout de suite, on me dit, ouais, lui, je crois qu'il y a un entraîneur qui dit de l'équipe de France, qui dit, lui, à toi, il faut que tu fasses tout de suite du combat.
C'était quoi le poids?
Moi, j'étais en moyen, moi, 70 kilos.
Bah oui, il y a bien le profil.
Ouais, j'étais en 70 kilos. Ouais. 70 kilos. Et puis, l'année d'après, je crois que je fais 8 combats d'un coup. Ouais. Enfin, tout de suite dans l'année, je gagne les 8, je crois. Non, j'en perds un, mais en fait, je me fais un peu plus ou moins voler.
Ouais. Ah, ça, on va en parler.
Ouais. Et l'année d'après, je fais les championnats de France. Mm-hmm. Et je fais le Critérium Île-de-France. Ouais, ça date, hein. Mais je fais le Critérium Île-de-France que je gagne. Après, je fais le championnat de France et je me retrouve face aux champions du monde. Voilà, j'ai 19 ans.
Et on dort bien la nuit qui précède?
Mais moi, mon entraîneur, il a tout fait pour pas que je le boxe. Ouais. Parce qu'il m'a dit, t'es trop jeune et tout, ça va être très très compliqué. Mais moi, comme j'étais un peu foufou dans ma tête, j'ai dit, moi, je suis prêt. Et puis, on l'a plus ou moins boxé. Et puis, mais j'ai quand même perdu. Donc voilà, et moi, j'étais dégoûté. Mais ça m'a servi de leçon. Et puis voilà, après, j'ai continué un petit peu. Et puis après, j'ai voulu voir autre chose.
D'accord, ok. Alors maintenant, c'est fini la boxe, c'est fini, non?
Ah non, encore là, je continue. Bah, comme je t'ai dit, je suis coach. Ouais. Donc maintenant, d'accord. Je transmets. Ouais. Et puis je m'entraîne. Et puis,
combien de combats par an maintenant?
Ah non, là, je combats plus.
Ah
oui, maintenant,
c'est fini,
j'ai 41 ans.
Voilà,
ouais, c'est fini pour moi.
C'est bien ce que je disais, la compétition, c'est terminé.
Voilà, mais après, on boxe pour le plaisir, mais on fait des petites compètes internes, en fait.
D'accord.
Voilà, donc on fait des petits assauts, on appelle ça de la touche, hein, du light, des combats light, donc sans KO, tout ça. Mm-hmm. Donc voilà, on s'éclate. Hein.
Mais alors, ça a été une belle école de vie, personnellement, la boxe.
Ouais, moi,
c'est un sport qui est très dur, qui est très exigeant.
Exigeant, tout ça. On a beaucoup rigolé.
Et quand on dit, je sais pas, à son entourage, je vais faire la boxe, quelle était la réaction?
Ah bah personne n'aimait. Hein.
Ah bah oui.
Personne n'aimait, que ce soit mes parents, tout ça, personne n'aimait. Aucune personne de mon entourage n'a aimé. Ouais. Personne.
Mm-hmm. Vanessa, la boxe, ça inspire?
Oui, moi j'ai déjà testé un petit peu et c'est très, très cardio, très physique.
Ah oui,
Oui, ça demande beaucoup de qualité.
Oui. Bah oui, on dit que l'entraînement du boxeur, c'est l'entraînement le plus dur mais aussi le plus complet.
Ouais, alors moi, pour moi, le plus dur, c'est les régimes.
Ah oui, non, on va en parler aussi parce que j'ai demandé le poids tout à l'heure parce que je sais que c'est une des particularités. On parlait de Thierry Marx tout à l'heure pour le judo, mais c'est pareil pour la boxe et tous les sports de combat, quoi. Ouais. C'est faire le poids, ça doit être difficile.
Ça, c'est dur.
Même.
Surtout quand il y a les bons plats de la maman et tout machin. Voilà, dans une semaine, ça, c'est dur.
Ouais. Bon, on a toujours fait le poids quand même.
Ouais, toujours.
On arrive à.
Toujours.
Pas avec la bouteille d'eau avant le combat où il fallait éliminer un petit peu.
Non, jamais. J'arrivais toujours au poids, bonne tension, impec.
Et sur le ring, comment on est avant? Parce que est-ce qu'il faut. J'aime pas trop ce mot-là, mais haïr son adversaire.
Non, jamais.
Parce qu'il faut quand même gagner, quoi.
Jamais. Moi jamais.
Ouais.
Ça veut dire que moi je suis spirituel.
Oui,
donc la veille de mon combat, je prie pour qu'il arrive rien à mon adversaire et qu'il m'arrive rien à moi. Et quand je ressors, je me rappelle même plus trop ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression d'avoir pris aucun coup et je gagne et tout se passe bien.
Combien de victoires ?
Moi j'ai gagné. J'ai dû gagner 12 combats et je crois que j'en ai perdu un ou deux, je crois, un truc comme ça.
Et c'était des rounds de combien ? C'était des rounds de combien ?
Des rounds de
3 minutes ?
Oh, c'était des rounds de 3 minutes, ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et donc en combien ? 8, 9, 10 ?
De rounds ?
Ouais.
Non, c'est des rounds. Alors en fait, en junior, je crois que c'est des rounds de 2 minutes x 3. Après, en première série, donc en fait, avant les élites, en fait, les élites, on va dire, c'est les professionnels. Et en première série, c'est des 4 rounds de 2 minutes.
Parce qu'on a reçu un boxeur, Karim Samaké, au mois de mars, au mois d'avril. Lui, il est invaincu. On l'a vu combattre Agani. Il est champion du monde, donc des jeunes, super Walter. Donc pour l'instant, il est invaincu. Hein,
d'accord,
bien. Mais il consacre tout à la boxe. Alors aujourd'hui, c'est un sport qu'attire.
Bah bien sûr.
Oui.
C'est un sport que tout le monde pratique.
Oui. Ici, dans le 13e, ça marche bien. Il y a beaucoup de clubs de combat, beaucoup de clubs de boxe. Hein.
C'est un truc qui se démocratise totalement et qu'aujourd'hui, même la personne qui est, on va dire, qui travaille dans un bureau ou qui n'a jamais vraiment pratiqué ça, il peut se retrouver dans une salle. Au bout d'un an, un an et demi, il peut avoir un bon niveau. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de combat, ils sont très très forts.
Oui, parce que c'est pas évident de rentrer sur un ring comme ça.
Bah, c'est clair. Nous, on a eu la particularité avec Philippe que je salue quand même.
Oui, oui, on va
bien
le saluer.
Bien sûr que je vais aller le voir après.
Oui, oui, oui. Puis on lui enverra le podcast.
Non, il n'y a pas de souci. En gros, quand il nous prenait en main, si vous voulez, moi, au bout d'un an, je boxais des gars, ils avaient 10 ans de boxe.
Ouais.
Ils avaient 10 ans de boxe. Ouais. Ils avaient, je vous dis que c'était. Des fois, ils disaient, vous dites rien, les gars, faut rien dire parce que sinon ça va être compliqué. Donc, des fois, parce qu'on s'entraînait très très sérieusement et puis on avait une mentalité entre nous jeunes parce qu'on venait du même quartier.
Ouais, ouais.
Les week-ends, quand on avait un peu de temps ensemble, on parlait que boxe. On parlait tactique. On disait, tiens, faudra qu'on travaille ça. On était vraiment dans une certaine mentalité.
Et puis, pour connaître un peu Philippe, comme tous les managers de boxe, on n'est pas que manager de boxe. On est un petit peu papa, on est un petit peu le confident.
Ouais, c'est ça. Lui et moi, on a beaucoup rigolé. De la déconnade.
Oui, mais il savait des fois.
C'était plus. Enfin,
remettre les pendules à l'heure.
Oui, aussi, oui, c'est sûr. Mais moi, j'avais plus un rapport rigolade avec lui. Ouais. Plus on rigolait.
Ouais.
Moi, c'était un peu plus âgé. Je suis arrivé à 18 ans, donc moi je rigolais un peu plus c'était plus de la déconnade.
Oui, parce que on parlait justement est-ce que c'est un sport dangereux d'abord pour assurer
bien sûr
parents.
On peut mourir.
Oui, on peut mourir. Même maintenant, parce qu'il y a des casques, il y a des protections quand même.
En fait, il suffit d'un mauvais coup KO et que vous ne relevez pas, vous mourrez. Il faut être lucide avec ça.
Parce qu'on parlait pour le rugby, on en parlait aussi, les impacts qu'on peut avoir. Mais en boxe aussi, on a malheureusement cette image de Mohamed Ali avec la maladie de Parkinson.
Bien sûr. Ouais. Après, je sais que c'est un truc que mais moi je pense que vraiment, j'aime énormément ce sport. Hein. C'est un sport que j'aime énormément. Je suis piqué par ça. Hein. Le jour où j'ai arrêté, on m'a dit, toi, tu vas voir, tu pourras jamais t'arrêter à
la preuve, c'est qu'après, il y a eu le coaching.
Il y a eu le coaching. Et puis même après, je suis allé dans d'autres grands clubs avec d'autres grands entraîneurs qui m'ont dit, non, on veut que tu restes, on veut te prendre en main de ça. Et j'ai toujours refusé. Mais je pense que pour moi, c'est un sport qui devrait rester. Du light, sur moi. Je pense que c'est un truc qui devrait rester sans chaos. Parce que en vrai, les lésions au cerveau, où on peut perdre un œil, c'est réel. Et quand. Moi, c'est un truc que je défendrais si j'avais le pouvoir de dire, je sais que les gens ne vont pas apprécier
ça. Mais des fois, il y a des managers qui arrêtent avant le combat.
Ouais,
ils savent
ouais,
que ça
j'avoue.
Va mal se finir.
Non, c'est sûr.
Par
c'est sûr, mais. Je pense que. Enfin, je pense que vraiment un KO, ça peut mal se terminer et on peut ne pas se réveiller.
Et c'est arrivé les KO ?
Ah, moi j'ai pris un KO.
Ouf.
Ah, mais moi je me suis. Vous pourrez demander à Philippe, je me suis réveillé, j'ai rigolé moi. J'ai dit, mais attends. Moi ça m'a rien fait de spécial. Par contre, ça m'a.
Ça fait plus de rien quoi.
Ça fait rien.
Quelques périodes de sa vie où
c'est ça. C'est ça. Mais après, justement, ça m'a plus fait peur justement.
Ouais,
et après, je me suis dit,
ça fait pas peur.
Comme
après,
ça m'a pas fait peur. Après, là j'ai commencé à me dire, ah ouais, non, mais en fait, comme ça me fait pas peur. Là, je pense que les gens ils vont manger du coup. Et là justement, mais je me suis fait peur à moi-même après, je me suis dit je pense que je suis trop comme j'ai plus peur de rien. c'est pas trop bon pour moi. Donc j'ai préféré, vous voyez ce que je veux dire, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, comme j'ai vraiment plus peur du tout de rien, j'ai préféré ralentir le truc. Parce que comme c'était le seul truc.
C'est le fait de plus avoir peur qu'il
ait
peur.
Voilà. Ouais, et comme j'avais vraiment plus de crainte du tout, là, et là j'ai dit, waouh, non, là, Romain, c'est trop pour toi. Là, mieux vaut que t'arrêtes. C'est mieux. Ouais. C'est, j'ai ralenti du coup.
Ouais. Donc ça a fait combien de carrières de boxeur, combien de pratiques, hein,
alors en tout, oh, j'ai dû faire ça en tout vraiment. Comme je vous dis, comme j'ai fait 2 ans et demi à fond avec Philippe. Ouais. Et puis bon, il y a eu un petit titre. Après, bon, on a affronté quand même des bons trucs. On a quand même combattu en Italie. Peut-être en 10 secondes ou 15 secondes à peine. C'était cool,
dans
moi j'étais content.
Peine comme ça.
Ouais, c'était cool, moi j'ai bien aimé. On a fait des beaux galas, on est parti à Lille, on est parti à Marseille, on a combattu à Perpignan.
Et les salles sont pleines
tout le temps.
On rentre comme Rocky.
À cette époque, ah ouais. Non, mais à cette époque-là, il y avait des gens du 93, 94. Ouais, et c'était. Il y a de la musique à fond quand on rentrait sur les rings. On avait des équipes, nous. Wow, c'était. Et pourtant, on venait que du 13e, nous. On était des petits gars du 13, mais quand on arrivait, waouh, c'était chaud. Ouais. On arrivait avec les casquettes, la musique, le rap et tout. C'était
jeune. Alors, on parlait justement des grands combats mythiques qui étaient suivis avant. C'est vrai que la boxe a été un sport hyper, hyper populaire il y a très longtemps. Hein. Mm-hmm. Puis c'est un sport qui s'est un petit peu discrédité, malheureusement. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins de combats. 4 fédérations, ça peut-être. C'est peut-être pas l'idéal, quoi. C'est peut-être pas ce qu'il faut, quoi. Parce que le grand public, il perd les points de repère. Moi, je suis d'une génération où il y avait 2 grands champions, voilà, c'est tout. Et puis ils s'affrontaient, et puis on savait qui était le meilleur dans les poids lourds, dans les poids moyens, voilà. Maintenant, 4 fédérations.
Ce que je déplore un peu, moi, c'est que.
On connaît plus le grand boxeur,
sans te mentir, Philippe, ce que je déplore, c'est que c'est des gens qui consacrent leur vie. Moi, j'ai pas ce niveau-là. Tu vois, j'ai un bon niveau, je sais boxer. Bon, les gens, ils savent, mais j'ai pas ce niveau-là. J'ai pas cette prétention d'être un grand champion ou d'être un champion comme certains qui consacrent leur vie à ça. Il y en a qui consacrent leur vie à ça, qui mangent boxe, ils slap boxe, qui passent toute leur vie à ça.
Et
ils ont pas, ils peuvent pas faire autrement pour certains. Mais tu vois, ils ont pas cette reconnaissance. Tu vois, qu'il devrait avoir, tu vois. Et quand tu risques ta vie, tu te lèves le matin, tu fais que ça et tout, et que t'as pas la reconnaissance au niveau financier, au niveau sportif et tout, et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Tu vois, je trouve ça dommage. Et pourtant, t'as des sports comme le foot et tout, c'est super le foot. J'adore, j'aime beaucoup.
C'est le même milieu en plus.
Mais quand les mecs, ils touchent des millions.
Les gens qui vont au foot, ils vont à la boxe.
Oui,
mais la boxe, ils sont un peu discrédités, les grands boxeurs. Voilà.
Que là, attends, moi, t'as des enfants, tu montes sur le ring, tu peux mourir, tu te rends pas compte, tu vois. Et quand tu touches des clopinettes et que t'as pas cette reconnaissance et t'as pas tout ça, c'est un peu dommage.
Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a moins de combats de boxe aussi. C'est peut-être plus dur d'en organiser, ça coûte de l'argent, les organisateurs, tout ça et tout. Les sponsors sont peut-être aussi un petit peu plus réticents, justement, à cause de ce dédoublement. Alors, on a des champions et championnes olympiques, mais après, ça suffit peut-être pas comme Assoum, par exemple, pour faire une carrière chez les professionnels, quoi.
Bah, et en fait, il faut peut-être des promoteurs ou des gars qui ont un peu de thunes et qui disent, bon, bah voilà, moi j'investis, ok, on fait des grosses soirées, on fait des trucs. Moi, c'est un truc que j'aimerais faire.
Il y a eu à Levallois-Perret, Balkany, moi je me rappelle, on y est allé.
Il y a des gros trucs. Moi, c'est un truc que j'aimerais faire, tu vois, j'aimerais développer ça, tu vois. J'aimerais développer des soirées dans des lieux.
Il y a Marcel Cerdan à côté ou même.
Bien sûr. Ouais. Mais Philippe, il avait commencé à faire des trucs comme ça, tu vois. Et moi, j'aimerais faire ce genre de trucs-là avec mon réseau rap, tu vois. On a commencé à. J'aimerais faire ce genre de trucs, des événements rap avec de la.
Pas faire les deux,
concert de rap
en plein milieu d'un match de boxe.
Faire des grosses soirées. Ça, c'est des trucs que j'aimerais faire. J'aimerais. Et d'ailleurs, venez le 16, on va essayer de faire des trucs un peu sympas, tu vois, de faire des petits événements comme ça. C'est un truc qui me plairait, moi. Vous êtes les bienvenus.
Oui, non, mais bien sûr. Donc, ensuite, on devient coach, on devient entraîneur. Il y a combien de jeunes actuellement entraînés?
J'en ai beaucoup, moi.
Oui.
J'en ai énormément.
Et le coach, il est comment? Exigeant, rigoureux.
Ouais.
Bon, déjà, il faut arriver à l'heure aux entraînements.
Non, ça va, je ne suis pas relou avec ça.
Ah oui, mais ça commence là.
Non, je ne suis pas chiant avec ça. Non,
ça
tu vois, je sais, mais non, parce que je sais que ça, ce n'est pas trop le truc. Je ne suis pas trop chiant avec ça. Mais par contre, j'aime bien que quand tu t'entraînes, que tu as une heure d'entraînement, que tu fasses ton heure d'entraînement, tu vois. C'est normal que tu travailles bien, tes mouvements, tout ça. Après, quand il y a un petit qui me dit, ouais, moi, j'ai vraiment envie, ah, tu veux. T'es sûr, vas-y, entraîne-toi bien, montre-moi que t'as envie et que tu veux, tu vois. Mais ils savent, hein, tu vois, après, il y a du respect et puis je veux que la personne, quand elle boxe, qu'elle gagne, quoi, tu vois.
Bien sûr.
C'est ça, moi.
Bien sûr, oui, oui. Ouais. Et les jeunes qui viennent dans ce sport, ils y restent alors? Ou alors, ouais. Bah, comme beaucoup, ils passent et puis après, ils vont ailleurs?
Bah, la plupart, ils restent. Il y en a qui reviennent l'année d'après. Et puis après, il y a des nouveaux. Il y en a qui ont testé, ils ont vu, ils ont dit, ouais, bon, bah, c'est cool, ils ont fait une année, après, ils passent à autre chose. Mais au moins, ils ont pris confiance en eux. Et ça, j'aime bien, moi.
Oui. Tu vois, et les parents, ils réagissent comment?
Oh, ils sont cool, hein.
Ah, ils sont cool.
Ouais, ça me...
Il
n'y
a
Romain,
pas de réticence.
Ouais. Moi, je les rassure. De toute façon, je suis père de famille. J'ai pas envie que leur enfant ils ressortent comme ça ou quoi. Et j'ai envie qu'ils prennent confiance. Tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Là, il y a une fille. Sa mère, elle m'a dit, ma fille, elle a confiance là. Ah, je dis, ah ouais. Je dis, mais elle peut avoir confiance, hein, ouais. Parce que là, sur le ring, ce qu'elle fait, c'est bien, tu vois. Mm-hmm. Et après, je dis, mais là, je la regarde et je dis, mais là, ce que tu fais sur le ring, tu le fais, faut le faire tout le temps, mm-hmm. partout. Tu vois.
Donc, ouais. C'est bien. Tiens, c'est intéressant parce que ça va intéresser Laura puis Vanessa. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui font ce sport. On a vu des très bons résultats.
Les plus fortes,
il y a une image qui change.
Je te mens pas.
Ah ouais, mais,
c'est les plus disciplinées.
Je sais pas pourquoi.
C'est pas étonnant, ça.
Mais les plus fortes. Depuis 2 ans que là, qui sont, c'est les filles. Kassa, il a, bon, Milan, il est super fort. Il a des filles, elles sont très très fortes. Mais les filles, moi, que j'ai à chaque fois, c'est les plus fortes. Je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Et en plus, elles frappent hyper fort.
Ah, oui, oui.
Mm-hmm. Alors, je sais pas pourquoi.
Oui. Bon, toutes les précautions quand même sont prises aussi pour qu'elles prennent pas trop de coups, qu'elles restent un petit peu.
Non, non, c'est clair. Même. Et puis moi, même aux garçons et aux filles, je leur dis, regarde, t'es beau, t'es belle, nanana. Je veux pas que tu prennes de coups, tu vois. Tu gardes ton visage beau, tu vois. Tu te donnes les coups, mais tu ne les prends pas.
Mmh. Voilà. Et il n'y a jamais de gros problème au niveau de la discipline parce qu'il n'y a pas des fois des têtes brûlées qui viennent et que ça les canalise.
Ah non, mais moi, je leur dis tout de suite.
Est-ce qu'il y a des exemples?
Ouais, ça peut arriver qu'il y en a qui va arriver.
Sur les sports de combat, sur les arts martiaux. Hein.
Ouais, ça peut arriver.
Notamment mais ou les sports de combat,
tu
ouais.
expliques. Tu dis non, tu ne fais pas ça, tu vois. J'étais là, il faut respecter, tu restes cool, tu vois. On n'est pas là. Même si tu es tout seul sur le ring ou quoi, mais on est une équipe, tu vois. Tu mm-hmm. fais pas mal à ton copain ou à ta copine, tu ne fais pas ça, tu vois.
Mm-hmm. Voilà, et puis, quand il y a un combat, le coach, il est comment? Il parle beaucoup à son boxeur, sa boxeuse, ou alors il laisse faire, ou alors ça dépend des individus. Hein.
Bah là, je te mens pas. Moi, j'aime bien le truc. Après, ça dépend des fois.
Oui, ça dépend de l'individu.
Ça dépend des fois, tu vois. Ouais. C'est que si vraiment la personne est vraiment, elle m'écoute pas du tout, et elle en fait qu'à sa tête, et elle prend plein de coups, il y a un danger là quand même. Je suis obligé de dire, attends, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mais sinon. Je préfère, je parle même pas.
Oui, non, mais avant le combat, par exemple, parce que parfois il peut y avoir le doute aussi.
Bah ouais, mais on a travaillé.
Vous avez connu ça aussi, le doute.
Ouais, mais Philippe,
avant le combat,
non, il parlait pas, non.
Non. Jamais dire, oh non, je vais pas y arriver, il me fait trop peur.
Non.
Il va gagner le combat.
Non, je crois une fois, il y avait un grand, il était hyper grand, tu vois. Il m'a regardé, mais j'ai dit, t'as vu comment il est grand? Je dis, ouais. Il me dit, ouais, vas-y, t'inquiète pas. Je dis, ouais, ok. Après, voilà, c'est tout, mais. Non, il n'y a pas. Non, faut pas. Parce que comme on s'entraîne, on se prépare. Après, j'aime bien leur donner des petites phrases mentales, des petits trucs, tu vois, quand je leur dis, t'as peur, ouais, mais c'est normal, tu vois. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai peur, tu vois. J'ai peur tout le temps. Après, quand t'as peur, mais on va trouver la solution. Moi, j'aime bien, on va trouver la solution.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. En tout cas, c'est une belle école de vie. Hein.
C'est, carrément. Ouais.
Alors, il y a aussi beaucoup de concurrence des autres sports de combat. On a notamment la semaine dernière parlé MMA. Est-ce que ça joue aussi sur la boxe? Est-ce que beaucoup se dérivent vers... Parce que je sais que le MMA, ça enlève beaucoup à d'autres sports de combat, où on vient de certains autres sports de combat. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour la boxe? Est-ce que Yann...
Je pense que le MMA, effectivement, ça... je pense que... Mais après, tout le monde a sa place. Hein. Mm-hmm. Tout le monde a sa place, et puis voilà, chacun choisit son truc, et puis on revient des fois aux anciennes choses.
Ah oui, ça arrive aussi. Hein.
Ouais, les gens ils reviennent aux sources, et puis après, non, mais après chacun voit midi
à sa place. Et cette mode du MMA, elle s'explique comment?
Oh bah.
Peut-être la diversité, on voulait peut-être.
Moi je te mens pas, j'aurais 20 ans direct.
Hop, ah ouais? Direct. Plus de boxe.
Direct.
Plus de boxe anglaise.
Ah ouais, moi le truc libre total, il n'y a pas de souci.
Ah ouais, ouais. Oui, non, mais il y a beaucoup qui réagissent comme ça.
Ouais. Ah ouais, c'est bien. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Bah ok, trop bien.
Mais vous disiez pas tout à l'heure que vous étiez contre les KO et il fallait.
J'aurais
20
ans.
Ah.
Ouais, ouais, j'ai 41 ans.
Ouais. 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 Mm-hmm. Justement, on a vu en MMA, Ngannou aller titiller Fury, c'est normal.
Mm-hmm. Ah ouais, il a bien fait. Hein.
Ouais.
C'était un super combat et tout. Oui. Moi, c'est super, tu vois. Après, l'art de combat, faut pas. Tu vois, c'est ma mentalité, tu vois. Ça veut dire que c'est comme si. je sais pas comment dire, je vais aller loin dans le truc, mais c'est comme si, tu vois, moi j'étais dans une finalité d'un truc, tu vois, où je me disais, ouais, ce serait mieux ça, moi je pense, tu vois, mais je vais pas être contre ça, tu vois.
Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais.
Ça veut dire que si on est dans 10 ans plus tard et que maintenant c'est comme ça, bah je dirais, ah putain, c'est trop bien, c'est mieux que ce soit comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans le présent et c'est comme ça, les choses. Tu vois, les choses, elles sont aujourd'hui, c'est dans le combat, le business, il est comme ça, tout est comme ça maintenant. Tu
vois, donc aujourd'hui, la MMA, il n'y a pas de. Enfin, de votre côté, il n'y a pas de réticence.
Bah, de toute façon, j'ai aucun pouvoir.
Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un sport dangereux qui peut mener à des.
Ouais, carrément. Mais moi,
j'ai. Événements tragiques.
Ouais, c'est clair, j'ai aucun pouvoir dessus, moi.
Oui, mais non, mais si c'est votre avis personnel.
Voilà, c'est mon avis personnel. Si dans 10 ans, on peut éviter ça, c'est bien, tu vois. Après, si un combat, il s'abrège sur une clé de bras, sur un truc et sans dommage trop important, bah, tant mieux, tu vois. C'est bien, tu vois.
Alors, on parlait d'argent et des salaires. Quand on fait de la boxe, même au niveau amateur, on gagne très peu. Hein. Faut le dire tout de suite. Hein. C'est pas le sport où on va gagner le plus. Hein.
Clairement.
Ouais.
Clairement.
Ouais. Hein, faut le dire.
Ouais.
Alors, il y a eu donc la carrière du rap. En parallèle, toujours, le rap est resté important. Ben, oui, il a été mis un petit peu en stand-by il y a un moment.
Non, en
et
fait.
Et puis, il est reparti de plus belle une fois devenu coach.
Ben non, en fait, ce qui s'est passé, c'est avant un combat, un jour, j'ai une pote. Pour la cité, elle s'appelle Émilie. Oui. Elle m'a dit qu'il boxait aussi, une boxeuse. Mmh. Et elle m'a dit, et en fait, avant un combat, on avait un peu de pression. C'était mon premier combat, bah, sans casque, sans protège et tout, machin. Et en fait, je me suis mis à rapper. Ils m'ont dit, mais tu rappes, toi? Je dis, bah ouais. Ils m'ont dit, mais tu rappes bien et tout. Je dis, bah merci et tout. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu continues pas? Je dis, bah je sais pas, j'ai pas le temps, moi, je peux pas rapper.
Ouais, entre la boxe, le rap.
Je peux pas tout faire.
Ouais.
Et après, elle m'a dit, mais non, mais faut même pas arrêter, tu vois. Je dis, bah ouais. Elle me dit, ouais, je peux pas faire les deux. Elle me dit, mais si. Je dis, ouais.
Okay.
Après, elle me dit, ouais. Et un jour, j'en ai parlé à Philippe. Il me dit, mais tu pourras tout faire au moins. Après, je dis, ah bon? Elle me dit, bah ouais. Après, je dis, ah bon, je suis mastueux, tu vois. Ouais. Et après, bon, bah après, j'ai repris après.
D'accord.
Et après ça, je crois que j'ai repris, en fait, je me suis remis à écrire, nanana. Et le jour où j'ai voulu prendre décision d'arrêter la boxe, parce que j'en avais un peu marre, et je suis un peu tête de mule, moi. Je suis un peu difficile dans ma tête quand ça, j'en ai marre, j'arrête. Et pourtant, j'étais piqué. Hein. Et après, je me suis mis au rap. Et là, après, quand je me suis vraiment mis au rap, ouais, après, tout est monté. J'ai créé des événements dans le 13e.
Oui.
Voilà. Bon, après, j'ai été père, donc après là, pareil, j'ai stoppé aussi. J'ai stoppé, je me suis
alors,
mis à fond
aujourd'hui,
sur ma fille.
Il y a le coaching en boxe, il y a encore un peu de rap de temps en temps où on
Ah là, mais
le,
complètement.
On vit sur le passé.
Ah, mais là, complètement. Là, on crée des gros événements sur Paris, on crée le Cypher National. Donc on a une date le 27 janvier au Centre Curial. C'est ça,
J'ai reçu le pied SMS.
Voilà, donc là, on a créé ça. Après, il y a ma carrière d'artiste. Donc il y a toujours les projets qui sont en cours. Après, vous pourrez me retrouver sur les réseaux, tout ça. Donc il y a des futurings, il y a le Safer National, il y a des clips de prévus, on essaie de commencer à s'occuper de jeunes aussi, essayer de les développer un peu. Il y a la radio, il y a l'émission de radio.
C'est bien.
Voilà, il y a tout ça.
Et l'émission de radio, c'est quoi? C'est uniquement musique ou...
Ouais, c'est culturel. D'accord. Sur les cultures urbaines. On reçoit aussi des fois des sportifs.
Ah.
Ouais, ça arrive de temps en temps. On va vous inviter, Philippe.
Le côté de la barrière.
Ouais, non, mais...
C'est à nous qui posons les questions.
Ouais, non, mais ce sera l'occasion. Et puis, ça s'appelle le Storia Show.
D'accord.
Et je salue l'équipe de Dynamic Radio, Fred et toute l'équipe. Et du coup, je suis vraiment multicasquette et j'essaie de...
C'est bien, c'est une vie bien remplie.
Ouais,
bien. Alors justement, le deuxième titre, c'est Storia Cherokee. Eucalyptus, c'est ça?
C'est ça, mais après, si on n'a pas trop de temps, tu peux mettre Victoire et Défaite direct.
Non, on le mettra sur la fin.
Ok,
comme,
ça
comme
marche.
Comme c'était prévu. Allez, on écoute donc Storia Cherokee, Eucalyptus.
C'est ça.
Qualité. Cette année je suis calibré. Non, je déconne, t'as paniqué. Faut pas que t'abuses de Calitus. Papyrus, les poupées russes. Fais la carte, t'as pas tiqué. Foutre le feu, même sans briquet. Représenter, c'est obligé. C'est quoi ton nom? J'ai oublié. Bien sûr, je vais t'oublier. Sans oublier les cinq piliers. Et si je peux toucher un petit billet, je vais pas me gêner. Dans la famille, je suis l'aîné. T'as du faux, t'as pas d'idée. T'as l'air fatigué. Quel mot je t'ai piqué? Petit pickpocket, je te mets au piqué. C'est pas compliqué. Écoute, Alma, libre la vie, la loca. Après ce spectacle,
des chips et du Coca-Cola. Oh là, c'est Caramilla, Harry. Je crois qu'on n'est pas paré, mais c'est carré. Ici, c'est Paris. Des tas de tarés, des tétards qui méritent des teutards. Une pensée pour les dollars et les dollars. Quelques pas tous les gros bars. Dans ma tête, du lunatique, du M. Sola. Aïe. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses. Sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle. On va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses. Sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle. On va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses. Sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle. On va finir la sieste. Fini la sieste, on a la dalle. On va finir la sieste. Ça a de l'allure, cousin Sartex, ça a du tech, ça a de la technique. Attends, j'ai pas terminé les mois, la bouche, le pic à la main, le terre à la menthe. Je témoigne, on est des hommes qui cherchent à vivre dans tous des ordres. Dès lors, j'appelle les frères en fort, combat, armes égales, armes égales. T'as pas compris le ton que je prends, vénère mes calmes. Des tas de choses à comprendre, car ils comprennent que ce qu'ils comprennent, ce qui les arrange. Des transferts de grosses sommes, ils transforment leur aile pétrole pour nourrir la bête folle. La fleur perd ses pétales, le bon perd les pétales, c'est brutal. Dans la rue, on est tous loués vers l'or, chacun son trésor. Ici, c'est la femme, d'abord le taf, la peur. J'en place une pour les bras de ma peine. On attend la fin du mois, la paix, le miel et les abeilles, les tracas. On aimerait les saper comme des ratés. On charbonne pour pas se rater, enchanté. Moi, c'est story. Oligato, tu m'as gâté, obligato, je veux la part du gâteau.
Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses, sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la table, on va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses. Sors, tournez ma fesse, fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des fesses, sors, tournez ma fesse, fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste. Fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste.
Y'a le joyeux, le triste fado, le dièse, les fa dièse, les faibles et les balèzes, les jolies femmes, la belle fête polyfacio, la famille à table, les Bonnie and Clyde, les Roméo et Juliette, le bon matin à bicyclette, le recyclage. Tant de choses dans ma vision, chacun sa mission, monsieur. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vise, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils disent. La vie c'est dangereux, moi je suis courageux, on tirage au tirage. Dans ma poule, y'a du gros level, alors j'arrête de rêver et je réalise sans baliser. Te sens pas visé, on est ensemble, le phénix et ses cendres. Ceux qui veulent redescendre, on est là, c'est pas récent, pas paresseux, c'est pas résultat à la naissance dont je tire l'essence. Dans mon moteur, ça ronronne, moi sérum, je sérum pour que tu décompresses du sternum. Ils veulent nous mettre la misère, je suis à la vie dans la rizière. Ils te marchent ton dessus comme si t'étais une brindille. Je suis pas leur mec, ni de Monica, ni de Brandy.
Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses, sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses, sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste. Tu veux tester, bah vas-y, teste. Je vais te baisser des baisses, sors, tourner ma fesse. Fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste. Fini la sieste, on a la dalle, on va finir la sieste.
Paris FM. Voilà, allez, comme chaque semaine, on va retrouver notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos, pour le Point Foot. Stéphane, il n'y aura pas au bout du foot ce soir, donc on retrouvera l'émission avec Malik la semaine prochaine. Semaine internationale, donc pour l'équipe de France. Le match de tous les records après sa victoire contre Gibraltar 14-0.
Ouais, tout à fait. Ouais, une énorme victoire, un record à tous les points de vue, puisqu'on a vu aussi Zaïre Emery, plus jeune joueur depuis 1914, ouais, pour apporter donc de l'ère moderne, bien sûr, de porter le maillot de l'équipe de France. Plus jeune joueur a marqué un but aussi, 1914 également. Et puis ce score de 14-0, l'ancien record, c'était 10-0 contre, je sais même
c'était
plus.
C'était l'Azerbaïdjan à Auxerre en 1995. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas, Stéphane. Hein, on était dans une autre vie là-bas.
Ouais.
Ah, ouais. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements de ce match, si c'est que l'équipe de France a su rester sérieuse et concentrée jusqu'au bout?
Oui, bah, tout à fait. Et puis bon, après, ça avait quand même un trait sur l'expression « il n'y a plus de petites équipes » parce qu'il y en a, mais on avait gagné que 3-0 à l'aller. Puis quand vous regardez, vous avez des équipes comme Saint-Marin, comme d'autres qui…
Oui, les îles Féroé, on se rappelle aussi, ouais.
Voilà. Mais bon, 14-0, c'est quand même assez énorme, quoi qu'il en soit. Quoi. Je veux dire, 14-0, c'est quand même…
Oui.
Ça fait un but toutes les 7 minutes.
Et 7 buts par mi-temps. Hein. Et en plus, un gardien qui a quand même eu 2-3 belles interventions. Donc le score aurait pu être plus large. Hein. Ouais.
En plus de ça, il y a 9 buteurs, hein, plus le joueur qui a marqué contre son camp. Donc c'est assez quand même révélateur d'une équipe qui a du jeu, qui joue dans le collectif, quoi. On peut pas dire bah tout dépend de Kylian Mbappé ou de un tel ou de un tel. C'est vraiment c'est la force du collectif avec chose incroyable, Griezmann qui lui n'a pas marqué.
Oui, ah oui. Alors, Griezmann, hein, je crois 68 matchs consécutifs en équipe de France, c'est assez fabuleux quand même. Hein. Alors bon, il reste un seul match contre la Grèce, hein, l'équipe de France est déjà qualifiée. Je suis sûr que le défi de cette équipe de France, c'est de gagner tous ses matchs dans cette phase de poule.
Ouais, tout à fait. Bien sûr, au début, c'était même, je pense qu'ils avaient même un autre défi qui était de ne pas prendre de but. Ils en ont pris un, je crois, au dernier match. Donc, ils contre les Pays-Bas, je crois, aux Pays-Bas. Donc, entre guillemets, malheureusement, même s'ils ont, ils sont vite passés à autre chose, mais c'était aussi leur défi, je crois, de ne pas prendre de but, de gagner tous les matchs sans prendre de but. Bon, bah, là, ça sera gagner tous les matchs avec, je pense, largement la meilleure attaque de tous les groupes, de toutes les équipes. Donc c'est quand même pas mal pour un joueur comme pour un entraîneur comme Deschamps, qu'on taxe souvent de pas faire la part belle au jeu, d'être beaucoup trop défensif et tout. Bon, je pense que c'est que Gibraltar, hein, 198e nation au classement FIFA, et donc mais bon, ça veut quand même tout dire, quoi. C'est quand même tout dire. Bon, 7-8-0, il y a eu une victoire, je crois, du Portugal, 9-0.
Oui.
Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que le dernier match qu'ils ont gagné, pas cette semaine, lors du dernier rassemblement, 9-0, c'était le même arbitre qui officiait. Donc, il a officié deux matchs en tout et pour tout dans sa carrière au niveau. À ce niveau-là, il s'est fait 9 et 14-0, et il a vu 23 buts.
Quoi. Oui. Alors Stéphane, il y a quand même un point noir, c'est Zaïre Emery, hein, qui a été assez sérieusement blessé. Hein. Ça va largement handicaper le PSG pour la suite de la saison.
Oui, bon, bah, comme j'ai dit dans les différents petits commentaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai que, ou je ne juge plus sur un site, si le Paris Saint-Germain lit son avenir ou ses résultats à un gamin de 17 ans et demi, c'est quand même un peu grave, quoi. Donc, moi, personnellement, je suis comme Luis Enrique qui a fait savoir en interne qu'il ne se faisait pas trop de soucis. Et je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Je pense que son absence ne va pas complètement changer le jeu du Paris Saint-Germain. Il y a quand même des joueurs derrière, notamment Fabien Ruiz, par exemple, qui a joué avec l'Espagne, là, qui était titulaire avec l'Espagne, Manuel Ugarte, il y a quand même des joueurs, quoi. Donc, bon, oui, c'est préjudiciable, parce qu'effectivement, quand vous avez un bon joueur qui fait un très, très bon début de saison et qui sort, maintenant, combien de matchs il va manquer, on ne sait pas exactement, parce que
au moins jusqu'au mois de décembre, jusqu'à Noël, au moins.
Ouais. Ben, ça n'engage que vous, ça, hein. Parce que moi, bon. c'est pas forcément les infos que j'ai. Hein.
Ah bah moi, j'ai l'info différente, mais enfin bon, on verra.
Ouais. Non, mais c'est parce que c'est l'info que... Parce que ça fait, entre guillemets, un peu le buzz et tout, qu'on sortit l'équipe, il jouera plus en 2023 et tout. Bon, après, il y a certains... C'est sûr qu'il va rater donc Monaco vendredi, Newcastle
le mercredi suivant.
La Grèce, Monaco et Newcastle, c'était sûr et certain. Bon, après, ça va un peu dépendre de comment il va récupérer et tout. Ils vont sûrement, je pense qu'une fois que dans mon esprit, éventuellement le déplacement à Dortmund, le dernier match de la Ligue des Champions, qui sera peut-être aussi l'objectif du Paris Saint-Germain s'ils peuvent le récupérer, quoi. Mais bon, on n'est pas non plus sur un joueur normalement, c'est le Paris Saint-Germain a un effectif qui permet de pallier quand même à ce genre de choses, quoi.
Alors pour revenir sur les qualifications à l'Euro, pour l'instant Stéphane, il y a 17 équipes à ce jour qualifiées, hein, 16 plus l'Allemagne, pays organisateur, donc on va rappeler qu'il y a l'Espagne, l'Écosse, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Turquie, l'Albanie, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, le Danemark, la Roumanie, la Suisse, le Portugal et donc la Slovaquie et puis l'Allemagne. Il reste 4 places à prendre avec donc des matchs très indécis, notamment ce soir l'Italie qui est en sursis, qui va jouer donc contre l'Ukraine.
Voilà, tout à fait. Il y a quatre places à prendre.
C'est à 20h45 ce soir, les Italiens.
Voilà, et il y aura trois finales.
Oui. Alors ça, il y a déjà quatre matchs à prendre. Hein. Ensuite, il y a un Croatie-Pays de Galles qui va être aussi intéressant puis déterminant. Puis...
Ouais, sauf qu'ils ne jouent pas contre. Hein. Ils jouent pas contre
hein. Non, mais voilà.
C'est les seuls. Hein. Tous les autres, c'est des finales.
Oui. Après, il y a un Moldavie-République tchèque et puis Slovénie-Kazakhstan. Voilà les suspens pour les quatre dernières places qualifiées.
Ukraine-Italie, Slovénie-Kazakhstan et l'autre, là, c'est...
Il y a Moldavie-République tchèque.
République-Tchèque-Moldavie, c'est en République tchèque. Le match République tchèque-Moldavie, c'est trois finales, c'est-à-dire que l'équipe qui gagne, elle est qualifiée. Et puis après, c'est Croatie et
le Pays de Galles qui se battent pour... Alors, je crois qu'eux jouent demain soir, hein, les deux équipes.
Voilà, puis avec quand même un très, très net avantage pour la Croatie qui va mieux depuis ces dernières semaines et qui joue l'Arménie chez elle et qui a besoin de battre l'Arménie, alors que le Pays de Galles, l'Arménie qui est avant-dernière, je crois, du groupe, et alors que le Pays de Galles reçoit quand même la Turquie, qui est le leader du groupe. Donc, faudrait que la Croatie ne batte pas l'Arménie pendant que je me demande même si un nul ne leur suffirait pas.
Voilà. Et puis on va. Alors effectivement, donc il y a Ukraine, Italie tout à l'heure, donc à 20h45. Demain il y aura Croatie, Arménie et Pays de Galles, Turquie. Et puis ce soir il y a donc aussi République Tchèque, Moldavie et Slovénie, Kazakhstan. Voilà. Et puis les trois dernières places, eh bien elles se joueront par des matchs de barrage suite donc à la Ligue des Nations. Hein. C'est un petit peu compliqué,
voilà,
mais bon.
Voilà. En sachant que l'Italie, l'Ukraine et la Croatie et la République tchèque, d'ailleurs, je crois aussi, s'ils ne passaient pas là d'après du premier tour, eux, ils seront de toute façon éligibles pour jouer les barrages. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Norvège, de Erling Haaland.
Oui, alors je disais, il y a deux équipes quand même importantes qui vont être privées de 7 euros. C'est la Norvège avec Haaland déjà, et puis la Pologne.
Ouais, la Pologne, ils ont quand même les barrages.
Encore ? Oui.
Ouais, les barrages, ils ont les barrages, mais ce qui est d'ailleurs quand même un constat assez incroyable, quoi, et puis un peu limite pitoyable quand même, quoi. C'est-à-dire que non seulement la Norvège n'arrive pas à se qualifier via les phases qualificatives officielles, mais en plus de ça, la Norvège n'est même pas capable dans la Ligue des Nations de se retrouver, je crois que c'est les 4 meilleures peut-être équipes au classement de la Ligue des Nations la Ligue A, c'est-à-dire 4 groupes, il y a 16 équipes, et sur ces 16 équipes, pensez bien qu'il y en a près de la moitié qui sont qualifiées de toute façon. Donc parmi les dernières, c'est-à-dire qu'ils sont même pas assez de points et tout, ils n'ont même pas brillé dans la Ligue des Nations. Donc c'est quand même assez grave et notamment très impactant, bien sûr, pour un joueur comme Erling Haaland.
Oui, le ballon d'or s'éloigne. Hein.
Voilà, c'est clair que là, il ne marque pas des points pour le ballon d'or 2024, mais comme on l'a déjà dit, hein, tout dépend aussi un peu des autres, hein, parce que si tous les principaux concurrents ils se bananent en huitième ou en quart de finale de l'Euro, ça ne leur aura pas forcément servi à grand-chose de jouer cette compétition. Mais c'est sûr que le problème, le débat, il y a pour moi quand même un vrai débat, c'est que j'ai un peu le sentiment que Erling Haaland, il se moque un petit peu de la sélection nationale, quoi. Moque dans le sens, pas moquer de se moquer d'eux, mais que c'est vraiment du second plan, alors qu'on voit que des joueurs, bien sûr, on ne va pas citer Messi, qui en a fait sur sa fin de carrière, pour différentes raisons, un point très très important, mais même Kylian Mbappé, il veut jouer tous les matchs, il veut toujours être là, alors que Erling Haaland, très souvent, il est blessé, alors on ne connaît pas la nature exacte de ses blessures à chaque fois, mais il donne quand même plus l'impression parce que quand il y est, il marque des buts, hein, de se reposer, d'en profiter pour un petit peu se reposer, donc je pense que ça va forcément lui jouer un préjudice, parce que quand vous regardez l'équipe de Norvège, il n'y a aucune raison pour qu'ils fassent moins bien que les équipes comme l'Écosse, la Hongrie, l'Autriche, Israël, par exemple, qui va jouer les barrages.
Oui, alors barrage, c'est pareil, oui.
Qui n'est pas qualifié, et d'autres encore. Donc, je veux dire, c'est quand même assez... incroyable d'en arriver là, quoi.
Alors Stéphane, donc il y aura, on l'a dit, 21 équipes qui seront connues à l'issue de cette semaine. Les trois autres, donc au mois de mars après les barrages. Ça veut dire que bah il y aura des tirages, il y aura les tirages des groupes de la phase finale le 2 décembre. Il y aura encore l'incertitude pour certains groupes.
Ouais, pour
les trois qualifiés.
Le tirage au sort de. Le tirage sort des barrages, donc je crois que c'est jeudi.
C'est le 2, c'est le samedi 2.
Non, mais les barrages. Les barrages, je crois que c'est jeudi ou vendredi. Vendredi.
Ah, peut-être, oui. D'accord.
Le 23, je ne sais pas quand ça tombe le 23.
Et après, les trois derniers venant de la Ligue des Nations, ça sera au mois de mars. Hein.
Voilà, c'est au mois de mars, donc effectivement, ils seront tous les trois qualifiés seront dans la poule, dans le chapeau 4, et seront donc effectivement, il faudra attendre d'avoir le... Je crois que c'est le 26 mars, les finales, le 26 mars au soir, pour savoir si vous avez dans votre groupe un qualifié de par la Ligue des Nations. Il faudra attendre le 26 mars pour savoir lequel ce sera.
Alors, on a notre ami Romain qui est notre invité, un boxeur, grand passionné de foot. Romain, un petit mot sur ce qu'on vient de vivre avec l'équipe de France. Elle sera une des favorites pour l'Euro. Hein.
Moi, je pense qu'ils ont toutes leurs chances, oui, hein, tout simplement. Je pense qu'il y a des grands, grands, grands joueurs et que, voilà. Hein. Après, la Lande, j'espère que, il a tout. Comme c'est un grand, grand joueur, je pense déjà Ballon d'Or pour lui peut-être l'année prochaine.
À condition que Manchester City fasse une belle saison.
Aussi. Hein, voilà. Mais après, c'est dommage s'il boude un peu sa sélection nationale, mais je sais pas comment trop ça se passe dans son dans là-bas au Danemark, hein, je sais pas trop.
C'est
trop
Norvège.
Ah, Norvège, ouais, pardon. Ouais, oh là ouais. Là, tu vois, Norvège. Mais en tout cas, mais ça va être une belle compétition et je pense que la France, ils vont plier tout le monde.
Alors justement, on parlait de la flamme olympique. Imaginez la finale de l'Euro le 14 juillet, au moment où la flamme arrive sur Paris, ça sera une fête fabuleuse, jour fête nationale en plus.
Je pense que cet été-là, ça va être le feu à Paris.
Absolument. Bon Stéphane, en marge de cette semaine internationale, il y avait un 7e tour de Coupe de France, donc c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas de championnat de Ligue 2 et national. Il y a eu quand même 3 clubs de Ligue 2 qui sont tombés, Concarneau, Troyes et Bastia, et puis le Restart en national qui survole pourtant le championnat, qui a été battu donc par Châteauroux de Buzyn.
Ouais, tout à fait, c'est la preuve que
la coupe reste la coupe.
Bastia, Troyes et Concarneau, on peut facilement penser que ce sont trois équipes, bien que Bastia c'est un peu plus étonnant, mais que ce sont trois équipes qui de toute façon ont mis mettent tous leurs objectifs et leurs priorités absolues sur la Ligue 2, sur le championnat, hein, Troyes Troyes notamment pour essayer de se maintenir, parce qu'ils sont pas très bien, et puis Concarneau parce qu'ils découvrent ce championnat, donc ils ont pas voulu faire de... Maintenant c'est vrai que c'est étonnant. Et Red Star par exemple, c'est étonnant, mais ça prouve que la Coupe de France, c'est la Coupe de France, quoi. Ça
va différemment, c'est une épreuve différente complètement. Alors, une équipe qu'on connaît bien, puisque c'est le Paris FC, hein, on les avait vu battre les Ulysses l'année dernière au même stade de la compétition au 7e tour. Là, ça a été ric-rac, hein, contre Villejuif, hein, pour le derby. Hein, 2-2 et 5-4 simplement au tir au but pour les Parisiens.
Oui, tout à fait. C'est l'exemple, la confirmation de ce qu'on vient de dire. Hein. C'est très, très compliqué. Hein. C'est contre des équipes. Alors, je ne sais pas, Villejuif, à quel niveau ils jouent. Donc là, ça devient.
Il me semble qu'ils jouent R1. Donc, vous voyez.
Là, c'est même très, très. Ça devient quand même assez inquiétant, quand même. Ouais. Mais bon.
Mais en même temps, les gens.
Même National 2, National, c'est après les... Même quand on a des clubs, des fois, de National 2, où on trouve plein de joueurs qu'on joue dans des centres de formation et tout, qui arrivent, qui ont un très bon niveau. Et sur un match, c'est le problème de ces joueurs et des joueurs professionnels, c'est de rester sérieux dans toute une carrière, dans toute une préparation, sur une saison, par rapport à tout ce que ça entretient. Maintenant, préparer un match, et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des très, très bons entraîneurs.
Bien sûr, bien sûr. Romain, tu voulais rajouter.
En fait, les gars, ils se subliment à ce moment-là.
Oui.
C'est, tu joues contre des grosses équipes. C'est comme un challenger en boxe.
Oui, oui,
bien sûr. Rencontres un champion ou un gars qui est super fort, mais t'es obligé de te sublimer, quoi. Tu vas tout faire pour gagner.
Voilà. Donc pour l'instant, il reste 5 équipes franciliennes, donc au stade des huitièmes de finale, du huitième tour, qui se joueront les 9 et 10 décembre. Il y a le Paris FC, Sannois Saint-Gratien, Fleury Mérogis, le Racing et puis le Plessis Robinson qui fait office de petit pousset, puisque eux sont en R1 justement.
Ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas une équipe de. Il y a encore. Je crois qu'il y a encore des. Ils sont. Il y a. Tu dis petit pousset, c'est de la coupe. Il y a
oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je parle des franciliens et franciliennes. Hein,
ah,
voilà.
Des
équipes franciliennes. Encore, hein, ouais.
Au niveau national, je crois qu'il y a encore des équipes de R2 qui sont encore. Qui sont encore en lice, et c'est extraordinaire quand on voit, bon, tous on a suivi, je pense que chacun a suivi ou suit sur les réseaux sociaux toutes ces vidéos dans les vestiaires après le match et tout, de toutes ces petites équipes et tout qui se transcendent et tout pour les matchs de coupe, et c'est extraordinaire. Quoi, moi j'ai toujours, depuis que je suis journaliste, j'ai toujours adoré ça.
Ah bah oui,
ça. Il y a une époque même pour les journaux pour lesquels je travaillais, on préparait des grands avant notamment le les 32e, quoi, tour avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, des numéros spéciaux entiers quasiment, avec toutes ces histoires, c'est passionnant, c'est incroyable, c'est beau de vivre ça pour tous ces clubs, quoi.
C'est vrai qu'il y a des belles histoires pour la Coupe de France. Allez, un petit mot sur les féminines. Donc c'était une semaine de Ligue des Champions, ça s'est pas trop bien passé pour les équipes parisiennes, hein, puisque le Paris Saint-Germain a été battu à Amsterdam par l'Ajax 2-0, défaite du Paris FC à domicile devant le BK Hakem 2-1. Par contre, Lyon s'est imposé à Prague très largement 9-0.
Ouais, tout à fait. Bah, ce qui est surtout dommage, le plus dommage et le plus regrettable pour moi, c'est le Paris FC, parce que le Paris FC, c'est un peu comme ça peut être présenté un peu comme Lens au niveau des hommes, c'est-à-dire que c'est un peu leur ça a été un peu une surprise de les voir se qualifier. On espère tous qu'ils vont faire quelque chose, mais ça va être dur. Et un match à domicile contre une équipe qui n'est pas favorite comme ça, c'était pas un match à perdre, quoi. Donc c'est vraiment préjudiciable. Maintenant, on va voir comment, bon, le Lyon, je pense que ça sera une partie de plaisir. On va voir comment le Paris Saint-Germain, qui est quand même resté très, qui selon moi, en tout cas, puis au fil des années, n'en finit pas de s'affaiblir, quoi. Donc ça risque d'être un peu compliqué quand même pour elle aussi, en commençant comme ça. Maintenant, bon, il n'y a rien d'alarmant de perdre à Amsterdam 2-0.
Alors justement, il y avait aussi une journée de championnat féminin, c'était la 8e journée. Bon, ça s'est mieux passé pour les équipes parisiennes, puisque le PSG a battu Fleury 2-1, et le Paris FC a battu Bordeaux 1-0. Victoire très large de Lyon, hein, qui survole ce championnat, toujours invaincu, les Lyonnaises, en écrasant donc Dijon 4-1. Donc Lyon en tête 24 points, devant le Paris FC 2e 21, et 3e donc le Paris Saint-Germain 15 points.
Voilà, il paraît Saint-Germain avec deux matchs en retard.
Oui, deux matchs en retard, faut le dire quand même. Hein. Ouais,
voilà,
ouais.
Mais bon, les matchs en retard, hein, c'est après facile de dire qu'on va les gagner. Souvent, on ajoute, bon, quand c'est Paris Saint-Germain, peut-être, mais on ajoute les points directement en se disant, bah, ils devraient être là, mais bon, il faut les gagner après, ces matchs en retard.
Juste un petit mot, même si c'est la trêve au niveau du championnat, du retour de Julien Stéphan à la tête donc de Rennes. Ça y est, c'en est terminé de Genesio. On en parlait, hein, notamment dans Au bout du foot. Bah, Genesio, il n'a pas attendu qu'on le mette dehors, c'est lui qui est parti.
Oui, tout à fait. Bah, ouais. Il n'a même pas, non seulement pas attendu, parce qu'il a même presque attendu qu'on le confirme, hein, puisque on a eu d'abord l'information en disant qu'il y avait des réunions et tout, et puis il a été confirmé, et puis apparemment il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il voulait notamment avoir Samir Nasri comme adjoint. Ça lui a été refusé, bien qu'il y avait pas vraiment pourquoi, probablement pour des questions financières, parce qu'il y avait pas mal de partisans au sein du club. Et puis finalement, il a décidé de partir. Mais on sentait quand même un petit peu cette lassitude chez lui. Je pense très probablement aussi des promesses ou des choses en interne qui n'ont pas été vraiment tenues. Quand on regarde bien, bon, bah, on était tous appelés, quoi. Moi, le premier à pas m'enflammer, mais à trouver qu'il faisait un bon recrutement et tout. Puis quand on regarde bien, on s'aperçoit que les joueurs majeurs qui ont quitté le club, bah, ils n'ont pas été remplacés. Hein. Je pense au capitaine Traoré, on pense à Doku qui est parti à Manchester, même s'il faisait des bouts de match, il était un peu irrégulier, mais quand même, quoi, il avait quelques fulgurances super. Puis voilà, après, vous avez deux, trois joueurs qui vont bien. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs, notamment en défense, et je pense qu'il n'y a pas eu. Le recrutement, il n'a peut-être pas été très, très bien suivi. On a été ébloui par Matic, qui, je pense, reste un joueur important et un bon joueur. Il lui fait un début de saison très correct, quoi. En tout cas, quand moi, je l'ai vu jouer. Mais pour le reste, il n'y a pas eu vraiment de recrutement très, très intéressant. Aussi, il y a le fait, le Blas, mais qui ont du mal, surtout Ludovic Blas.
Ok, Stéphane, merci en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine et je vais vous laisser aller voir Ukraine-Italie, hein, 20h45. Ouais. Hein. Voilà, ok. Allez, merci. Ouais. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le point foot. Juste un petit mot, oui. Romain, vous aimez le foot, Romain, hein, ouais, vous l'avez dit. Hein,
ouais. Ouais. J'ai voulu faire. J'ai joué au Sporting.
Oui, qu'on a reçu il y a pas au mois de juin. Hein. Ouais. Très célèbre club de futsal.
C'est
hein.
ça, mais ah j'étais
ouais, ouais.
nul.
Ah ouais.
Ouais, j'étais nul. J'ai joué 9 et 9, tu vois. J'ai joué 11 parce que ouais, je suis gaucher moi. Mm-hmm. Donc j'étais nul, tu vois. Mm-hmm. Et en gros moi dès qu'il y avait du contact je voulais me battre, tu vois.
Ah ouais. Ah ouais, oui. Donc vois. Déjà il y avait des prémices.
Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. mais en plus je faisais pas de faute. Hein.
Oui. Ah tiens, je voulais qu'on parle justement de l'arbitrage dans la boxe parce que souvent c'est assez controversé quand même l'arbitrage. On l'a vu notamment sur beaucoup de décisions aux Jeux Olympiques. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tu vois, comme tout à l'heure, on peut en parler un peu en off, on est des humains, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, il peut y avoir des erreurs. J'ai passé le truc de juge arbitre aussi.
Oui,
hein.
oui, oui, oui.
Donc après, il y a des erreurs, tu vois.
C'est
y a
pour
des
ça que je pose la question. Ouais,
qui,
ouais.
Sont des erreurs, même en foot, hein, y a des grosses
oui,
erreurs.
Oui, mais bien sûr. Mais en foot, il y a la VAR maintenant qui corrige un peu.
Oui,
c'est un petit peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a des erreurs, tu vois. Après, ce que je trouve bien aujourd'hui, c'est que, comme on discutait un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des arrêts plus rapides. C'est-à-dire que quand la personne, elle est un peu déjà sonnée, un peu pas très bien et tout, hop, on arrête le combat et c'est mieux que de continuer.
Non, mais il y a eu des fois des décisions au point qu'on était limite.
Tu penses à quoi par exemple?
Je sais pas, le combat MMA tiens qu'on a vu là.
Ngannou tout ouais, ça. Ouais. Tu vois, c'est vachement bien ce que tu dis. Mais toi, tu pensais quoi toi?
Beaucoup ont dit que Fury c'était limite. Ngannou aurait pu gagner le match.
Tu me tends une perche pour que je me fasse des ennemis.
Non,
le podcast.
Je veux l'avis d'un spécialiste justement.
Alors écoute, moi quand je suis allé dans un bar avec des potes, mes potes ils m'ont dit Ngannou il va gagner, tu vois. Moi je dis non, il va perdre, tu vois.
La logique
voilà. Maintenant, même Tyson Fury pensait, je pense, qu'il allait gagner tranquille.
Oui,
plus ou moins.
C'est peut-être ça l'erreur qu'il a faite.
Voilà. Il a dit qu'il avait une sacrée pression quand même.
Oui, parce qu'il est tombé en plus, il a été au tapis quand même. Hein.
Donc imagine-toi, t'affrontes Ngannou, tu sais que c'est un colosse le mec. Mm-hmm. Tu sais qu'il y a Mike Tyson qui est plus ou moins dans son coin. Mmh. Tyson Fury, c'est son idole de fou, Mike Tyson. Mmh. Mmh. Tu comprends? Ça veut dire que lui, la veille, il se couche et dit: attends, il y aura là le monde. Il y a des millions en jeu. Il y a Mike Tyson dans son coin. Donc lui, il dort pas la nuit. Hein. Ouais. Lui, il dort pas. Là. Il dit: si je perds, oh la honte de fou. T'imagines la pression.
Ouais.
Il monte sur le ring, il commence à gagner et tout. Enfin, il commence à combattre, il tombe. Imagine la pression. Et là, dans le bar, il y a des gens qui disent: ah ouais, oh là, c'est foutu. Mais moi, j'avais un petit peu d'expérience quand même et j'ai dit: tu sais quoi? Non, il va pas perdre. Là, il va se relever. Là, c'est le métier qui va jouer. Là.
Ouais, tu vois, c'est ce qui a fait la différence.
Et c'est ça qui a fait la différence. Mm-hmm. Sauf qu'Ngannou, il a pas le truc du métier, tu vois. Mm-hmm. Il a pas le.
Non, mais c'est bien d'avoir corrigé ça.
Tu vois. Et donc, du coup, l'autre, il a géré. Ok, bon, il a pas pris trop de risques. Il a fait ses touches et tout. Et moi, je pensais que c'était fini, tu vois. Que quand même, il a gagné. Mais je suis quand même resté pour voir la décision de l'arbitre. Après, il y a le nombre de touches, tu vois. Il a fait un peu plus de touches quand même, Tyson Fury. Plus de touches. Donc, même si tu tombes à la première ou à la deuxième ou à la troisième, avec les touches, tu gagnes le combat. Donc,
très bien. Eh bien, écoute, merci, ça a été un plaisir.
Eh bien, le plaisir était pour moi.
Voilà. On va remercier Vanessa qui a fait sa première radio. Ça s'est
bien
passé.
Vous voulez dire quelque chose, Vanessa? Excuse-moi, je prends une parenthèse.
Tout à fait.
Non, mais vite, parce qu'on.
Non,
c'est trop tard. Ça sera fait un autre jour.
Pour la prochaine fois. Voilà. Alors, voilà, mais
c'est trop tard.
Merci.
Voilà. Très bien.
Tu voulais me dire. Ouais, pour le rêve, c'est ça? Réaliste tes rêves.
Voilà, ça sera le mot de fin. Merci, Laura. À la semaine prochaine.
Merci à toi. Laura, c'était cool.
On va remercier Jason donc pour la
merci
mise en
tous.
Route sur le plan technique de cette émission. Et on finit avec ton dernier disque,
merci
Victoria Cherokee, Victoire
ça.
Et défaite.
Victoire et défaite. Des fois on gagne, des fois on perd.
Et ben voilà, c'est.
Il faut gagner.
C'est le sport. Bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine.
Merci à vous tous.
Bonne soirée.
Yes, bonne soirée.
Stoya Cherokee, ok, Karamia, Vénus et Mars, et to clock, toc toc, tomahawk, oh. La vie est faite de victoire et de défaite. Nul n'est parfait, attends que je te mette au parfum. Mes rimes sont des parpaings. Cousin, lâche ton joint. Écoute mon son, ça va te faire du bien bon. On a besoin de ça, non. Dans ta chambre, ta voiture ou dans ton salon. Grand cœur, j'ai pas besoin d'avoir le bras long. Je garde les vrais près de moi et les faux pas si loin que ça, non. Toujours le maximum et pas le minimum. C'est pour mes grands hommes et mes mini-hommes. Si je meurs au dernier épisode, c'est que tout se finit bien dans l'épilogue. J'ai la rime tranchante quand je chante. Dis les choses franchement. La colère depuis l'enfance, le poing serré. On m'a vite fait comprendre, j'aurais du mal à m'insérer. Vision sombre, j'ai cherché la lumière, parfois désespéré. L'absence d'un père m'a rendu fâché. Ma vie j'aurais pu gâcher, mais une petite voix me disait de ne pas lâcher. Plus d'une fois je suis tombé, mais Dieu merci j'ai su me relever. La vie est faite de victoires et de défaites. Beaucoup à faire et des choses à ne plus faire. Je t'assure frère, perds pas ton temps dans la galère. Se mettre dans les problèmes c'est la misère. Le droit chemin y'a que ça de vrai, y'a que ça de bien. Y'a que ça de bien, j'ai un rêve, faut que je me batte pour ça, y'a pas de doute. Parfois des mots durs, mais pas de coups. Du rap sincère dans pas de couilles. Batman et sa Batmoule, plutôt Batman et sa 4 roues. Quand j'ai la dalle, il me faut un casse-croûte. Très peu casse-cou, fuck les casse-couilles. La classe ou l'art de passer partout. C'est pour les Asiates, Renoir, Absa et Papou. Le vide, je repère le salaud dans le salon. Il m'en faut peu pour être heureux comme Balou, donc je l'allume. Je dégaine mon mic comme Cole. La foule hallucine, elle en veut encore. Même si l'ennemi est un Golgoth ce coup-ci. Je sors ma plume et la foule me porte. Depuis que ma chandelle est morte, mon ami Pierrot, elle mérite ma mort. Ça passe, ça casse. Ce son c'est pour mes cassos. Je suis le boss, mais pas quand je me pose. Laisse causer les causes. Laisse causer les causes. La vie est faite de victoires et de défaites. Beaucoup à faire et des choses à ne plus faire. Je t'assure frère, perds pas ton temps dans la galère. Se mettre dans les problèmes c'est la misère. Le droit chemin, y'a que ça de vrai, y'a que ça de bien. Y'a que ça de bien, j'ai un rêve. Faut que je me batte pour, j'ai un rêve. Faut que je me batte pour. La rime en balle, ils sont tous en balle. Parce que je viens d'en bas, d'emblée. La première rime va te faire trembler. La seconde sera pour assembler. Story assez charmé, plein la charnée qui va te charmer. Je lâcherai jamais. Et si mon clan m'acclame, mon épilogue passe sur un son macabre. Un monde où règne le massacre. Des hommes avec des armes, des hommes qui ont perdu leurs âmes. Mon pic et ma page posés sous un arbre. Je manie mon art avec harmonie. Le rap c'est pas ma femme mais sans elle. Je suis comme Rémi sans famille. Mon corps qui famine, l'ami. Je veux finir comme Ami Danis. À l'aise dans mes baskets. Les âmes perdent du balise. Stoya Cherokee, je boirai le Cali jusqu'à l'Ali. La vie est faite de victoire et de défaite. De victoire et de défaite. La vie est faite de victoire et de défaite. Beaucoup à faire et des choses à ne plus faire. Je t'assure frère, perds pas ton temps dans la galère. Se mettre dans les problèmes c'est la misère. Le droit chemin, y'a que ça de vrai. Y'a que ça de bien. Y'a que ça de bien. Y'a que ça de bien. Stoya Cherokee, victoire et défaite.
Mon pari est fait.